Salut Benjamin.
Salut Benoît.
Ça va?
Ouais.
T'es mon premier invité dans ce nouveau podcast.
Oui,
Ça fait quoi?
je suis intimidé.
Bah, t'es pas le seul, tu sais. Là, j'emmène pas large non plus, hein. Donc, je reçois Benjamin Beneteau, qui est mon grand copain d'atelier. Tu dessines Michel Vaillant, là, en ce moment?
C'est ça, je suis un des deux dessinateurs de la nouvelle saison de Michel Vaillant avec Marc Bourg.
Avant, t'avais fait Alter Ego.
Exactement, et alors qu'on était dans notre tout premier atelier.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Ouais. C'est-à-dire en 2007, je travaillais à l'époque sur un projet qui n'a pas vu le jour, Zoan, et on a fait notre premier atelier dans
Ouais.
un local mal chauffé
Ouais. Je me rappelle
à
maintenant des
l'opposé du
premières
bal.
planches d'essai que tu faisais à ce moment-là avec la Jeep qui bondit et des trucs comme ça.
Exactement, et
Et ça
là
s'est
on
retrouvé dans
c'est.
l'album.
Ouais, c'est ça. Elle a été refaite. En fait, cette toute première
Ouais.
planche, je l'ai faite une fois et puis je l'ai refaite à la fin de l'album. Début de l'aventure Alter Ego. Il y a eu 11 albums, j'en ai fait à peu près 5. Puis donc Michel Vaillant depuis 2012.
Cool. Bon, bah, écoute, les BD, ça va revenir au fur et à mesure de la discussion, parce que
Ouais.
donc ce podcast, ça s'appelle Du pain sur la planche, parce que faire de la BD, c'est un métier, et pour faire un métier, bah, il faut bien bouffer. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui tu es, d'où tu viens. Donc là, maintenant, t'as quel âge au juste?
Alors, j'ai 31 ans et demi,
Ouais,
voilà,
et ça fait combien de
précisément.
temps que tu fais de la BD?
Alors, je sais pas vraiment dire qu'on. Alors, on va dire que je fais de la BD depuis que je suis à Saint-Luc. On va dire que ça fait bientôt 15 ans que j'ai décidé de faire de la BD, en
Ok.
fait.
Ben, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir d'où tu viens, comment t'en es arrivé à te dire un jour je vais faire de la BD. Donc t'es français,
Je suis français.
de Vendée, c'est ça?
De Vendée, exactement. En fait, je suis l'avant-dernier d'une troupe de cinq enfants. Et mes parents ont décidé, mes parents qui étaient instituteurs, ont décidé je crois que c'était en 88, un truc comme ça, de changer d'air et de quitter la Vendée natale pour découvrir de nouveaux horizons, c'est-à-dire en l'occurrence
Donc
Tahiti.
en 88, toi, t'avais
J'avais 3 ans et demi.
3 ans et
Je
demi.
suis né en 85.
Donc t'avais pas trop de souvenirs de la France.
Non, ils m'ont raconté comment ça s'était passé. Par contre, j'ai des souvenirs de quand on est parti. On est parti donc en juillet 89. Et là, donc, on a traversé toute la Terre
Ouais.
pour aller s'installer. En fait, c'était un peu des fous, mes parents, quand j'y pense. Hein. Je suis très content de ça,
De
d'ailleurs.
voyager avec un gamin de 3 ans et demi en avion,
Voilà, 4 ans et demi,
d'où...
moi, mon petit frère avait 2 ans et demi. Il y avait les deux autres frères et la sœur. Et ils avaient, je sais combien de dizaines de bagages. Et
Ouais.
en plus, en 89, les voyages. Donc, on est parti de Nantes, on est arrivé à Tahiti, mais par Amsterdam, Londres, je crois aussi, je sais plus, Los Angeles et Tahiti. C'est un voyage qui a duré 32 heures, un truc comme ça. Oui, quand j'y pense maintenant, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable,
Ah ouais.
c'était assez.
Il devait avoir bien préparé le coup.
Ils avaient bien préparé le coup, je pense qu'ils étaient aussi soit très confiants, soit très inconscients, mais toujours est-il que ça s'est bien passé, hein. On est arrivé à Tahiti, pas en pleine forme, mais en tout cas en un seul morceau. Et donc en fait, au départ, ils pensaient rester là-bas 3 ans, au moins, pour tester, pour voir. Mon père avait trouvé un poste d'enseignant dans le privé, une école catholique, et en fait, ils sont restés un peu plus longtemps. Ma mère a trouvé aussi un poste d'institutrice dans la même école. Et donc, les choses ont fait qu'ils sont restés. On est restés tous ensemble. Et mes grands frères sont partis les uns après les autres. Une fois arrivés en fin d'humanité, une fois avoir passé le bac, ils sont repartis en France pour continuer leurs études. Donc finalement, moi, je suis resté aussi jusqu'à mon bac. Donc je suis resté 13 ans
Toi,
là-bas.
t'es le dernier de la
Je
famille?
suis l'avant-dernier. Mon petit frère, lui, m'a suivi 2 ans après, en fait.
Mais la vie à Tahiti, ça se passe comment quand on est enfant et puis adolescent? Comme tes parents étaient enseignants, t'étais dans la même école qu'eux alors?
C'est ça, c'est ça. Donc j'ai passé ma toute première section maternelle en France, et c'était avec mon père qui faisait l'instituteur, et c'était marrant parce qu'il me favorisait pas forcément.
Ouais.
Je me suis rendu compte qu'en fait,
Je peux comprendre, hein, tu vas pas
c'était
faire
trop.
du favoritisme sur tes propres enfants.
Ah oui, j'ai testé une fois. Ah oui, d'ailleurs, je pense que ça, c'est un souvenir qui est intéressant vis-à-vis peut-être de mon obsession pour le détail dans la bande dessinée. Ah non, mais c'est vrai, j'ai un souvenir parmi les rares souvenirs que j'ai de ma plus tendre enfance. Donc je devais avoir 4 ans à l'époque. Donc on est en section des petits, et donc mon père nous donne un dessin à colorier à faire. Je me
Ouais.
souviens, c'était un poussin.
Mais
Donc on
c'est
lui
mon
donne.
job, là.
Exactement. Il nous donne donc aux élèves des feuilles blanches avec un poussin reproduit dessus. Je crois que c'était une reproduction à l'alcool qui était faite.
Avec oui, avec les vieilles machines presse là, voilà, qu'il fallait tourner. Je me souviens de ça.
Les feuilles sortaient là.
Ouais. Et puis c'était une encre plutôt bleue que noire en fait,
c'est
aussi.
Bleu mauve. Mm-hmm. Je crois que c'est ça dans mon souvenir. Et donc, le boulot était simple, il fallait colorier le poussin.
D'accord.
Et puis moi, je me dis, ah, je vais être le plus rapide de tout le monde. Alors, j'ai pris un feutre ou un crayon de couleur jaune et j'ai gratouillé à fond. Et je crois qu'en moins d'une minute, j'avais gribouillé mon dessin. J'étais tout fier, j'étais le premier à avoir fini la couleur du dessin.
Comme on peut faire des dessins à 3 ou 4 ans.
Ouais, voilà.
Je vois le niveau de dessin de mes enfants. La plus petite, elle a presque 3 ans et elle est vite contente dans son dessin.
Moi, j'étais content parce qu'elle avait fini avant les autres. Et donc, j'ai tout fier, je suis allé montrer à mon père. Uh-huh. Ah, t'as vu ? Et puis, enfin, j'ai pas dit ça comme ça. Mon père a regardé, il a levé un œil, il a froncé les yeux, il m'a dit « Tu recommences tout de suite, c'est n'importe quoi. » Il m'a redonné une feuille, et cette fois, j'ai dû recolorier. Alors là, j'ai fait très, très attention. J'ai surtout pas dépassé les traits. J'étais très, très méticuleux.
Mais tu vois, c'est ça, c'est l'apprentissage de ton père qui fait que t'es vraiment méticuleux.
Ça se peut que ce traumatisme de quand j'avais 3 ans, je dis traumatisme, mais bon, c'est pas un traumatisme, mais je me souviens de ce truc-là, donc ça m'a marqué à un moment donné, a fait que peut-être après, je me suis dit, il faut jamais dépasser.
Ouais, mais c'est ça, mais imagine, il t'aurait rien dit, il t'aurait ok, c'est bien Coco, maintenant on va
peut-être
jouer au Duplo. Tu n'aurais eu rien à foutre.
Peut-être que maintenant je dessinerai comme Stéphane Blin, je sais pas. Christophe Blin, pas Stéphane.
On balance pas enfin.
Dis donc, c'est quoi ça? Pas, de toute façon, il est certainement
très bien. Et
puis j'aime bien ce qu'il fait. Bah ouais, peut-être que mon dessin serait différent. Bah non, enfin, je pense que j'étais déjà de base un peu bizarre. Parce que déjà, tout petit, j'aimais beaucoup faire les choses de manière méticuleuse, en tout cas dans mon dessin. Je me souviens, donc toujours, là on est en maternelle, mais on est à Tahiti, là je suis en grande section, donc 2 heures après, je me souviens de quand on dessinait, il y avait un truc que souvent les enfants dessinaient, c'était la maison. Une maison simple, carrée, avec un toit rectangle au-dessus, puis une fenêtre avec des carreaux, et puis la porte, et puis la cheminée. Et en fait, il dessinait sans arrêt la cheminée dans l'angle, dans le même perpendiculaire au toit, c'est-à-dire que la cheminée est penchée.
Oui, tout à fait, mais Thomas, il fait ça, mon fils, il fait ça aussi.
Il faisait ça, je me dis, mais non, la cheminée doit être droite.
Non, mais...
Je crois que déjà, à l'époque, j'avais essayé de comprendre le truc de... Ah oui, non, il faut que la cheminée soit dans le même sens que les murs, parce que c'est pas logique. D'autant plus qu'il n'y a pas de cheminée à Tahiti. Hein.
Ouais.
C'est comme ça.
Ouais.
Donc je pense qu'ils dessinaient aussi quelque chose qu'ils avaient
des
pas
souvenirs.
Et donc j'ai commencé à dessiner les cheminées comme ça. Et puis surtout, j'ai découvert un truc. Quand on prolongeait les lignes sur le côté, c'est-à-dire si on faisait la maison de face, et après qu'on prolongeait les lignes, ça faisait une sorte de perspective. J'avais pas le mot à l'époque, mais c'était une perspective. Et j'ai des potes qui faisaient ça. Mais le truc, c'est qu'ils faisaient la maison de face, ils tiraient les traits, et après ils faisaient un truc tout droit à l'arrière, ce qui fait une perspective étrange. Et je m'étais dit, ah mais non, mais si on redresse là... Donc déjà à l'époque, je me posais des questions de perspective. Et devais avoir... je crois que j'avais 5 ans.
Eh bah dis donc, mais t'es précoce en fait.
En tout cas, pour ça, j'étais peut-être casse-couille déjà à l'époque. et en fait, je pense que ça fait partie des... C'est ce qui a fait que le dessin a toujours resté chez moi, je pense, c'est que j'avais toujours des questions à me poser par rapport à « Ah mais non, mais ça marche comment ? Ça marche mieux ? Ça marche ?» J'aimais beaucoup bricoler, j'avais la chance d'avoir un frère, donc le frère au-dessus de moi qui il a 6 ans de plus que moi, et lui, il s'intéressait beaucoup au design, maintenant il est designer d'ailleurs. Lui, il bricolait énormément, il sculptait, il était très, très manuel. J'ai appris avec lui à dessiner aussi mes premières voitures, parce qu'il a fait l'école Boulle à Paris quand il avait 15-16 ans. Donc c'est une école d'art appliqué.
À 15-16 ans, mais alors il est parti de Tahiti plus vite.
Il est parti en 92. Je me souviens que c'est avec lui que j'ai dessiné mes premières voitures un peu plus réalistes. Parce qu'il avait plein de magazines où il y avait des voitures, et donc je les regardais, puis je dessinais. Et puis j'ai un autre grand frère qui lui était beaucoup plus scientifique, donc lui m'a donné un peu l'envie de prolonger vers les sciences. Et en fait, mon père, lui, il a toujours été passionné de chant lyrique. Donc il y avait... petit côté artistique. Ma grande sœur, elle voulait faire des costumes de théâtre, et finalement elle a fait de l'histoire de l'art pour devenir directrice des musées de Poitiers. Et puis mon petit frère, lui, il a continué vers le dessin, mais maintenant il est vers le cinéma. Donc je pense que je baignais de base dans un climat qui favorisait. Voilà.
Bah, c'est cool que entre frères et sœurs, vous vous motiviez aussi au final.
Mais c'est ça, parce qu'en plus, comme c'était des grands frères qui avaient une différence d'âge assez nette, il y a une autorité en fait. Donc on était directement mon petit frère et moi, on était vraiment en attente et on imitait en fait ce qu'il faisait. Quand un de nos frères voulait faire telle école, on voulait faire la même. Quand un autre frère voulait faire éventuellement du design automobile, je voulais faire du design automobile.
Copieur. Quand il jouait avec ce jouet-là, tu voulais jouer aussi avec. Voilà. Et après, vous vous chamaillez tout le temps.
Lui, il était grand, donc c'est lui qui avait raison. Par contre, avec mon petit frère, oui, on se chamaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais la vie au jour le jour, au quotidien, à Tahiti, c'est cool.
C'est un territoire français d'outre-mer, donc c'est on parle français. C'est juste plus cool parce qu'il fait plus beau, les gens sont plus détendus, tout le monde sourit. On dit que la misère est moins pénible au soleil, et en effet, je pense que la misère est clairement moins pénible à Tahiti. Et ça m'a donné certainement un côté détendu, plus cool la vie, beaucoup moins stressé. Que j'aurais pu avoir si j'étais resté, je sais pas, en banlieue parisienne, par exemple.
C'est clair que t'as du soleil et t'as la plage pas loin, c'est quand même vachement plus sympa que d'avoir une barre d'immeubles, des mecs qui font la tronche et des embouteillages à n'en plus finir, quoi.
Mais je me suis rendu compte de la chance qu'on avait de vivre à Tahiti, ou que j'avais de vivre à Tahiti seulement avec le temps, parce qu'en fait, au départ, j'étais gamin, donc j'avais quasiment que ça. Et j'enviais très fort mes cousins quand on revenait en France. Je me disais, mais c'est trop bien la France, il y a plein de super grands magasins, il fait froid en plus, il y a l'hiver, c'est
vachement. De la neige, c'est quoi ce truc?
Ça, exactement, la neige, je me souvenais plus en avoir vu. Enfin, j'avais un vague souvenir de quand j'avais avant 4 ans. Et la première fois, j'en ai revu, papa, il y a de la neige. Non, mais bon, c'est un tas de neige fondue sur le bord de la route. Si, descends, arrête la voiture.
Je vais la lécher.
Voilà. Trop bien. Et il a fallu que je vieillisse pour me rendre compte que non, c'était trop, trop bien. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses. C'est une expérience précieuse.
Mais du coup, d'être à Tahiti, comment t'as entretenu ce rapport avec la bande dessinée? C'était avec tes frères ou bien... Parce qu'il faut situer aussi, à l'époque, dans les années 90 et début... pas début 2000, il n'y avait pas Internet. T'avais moins accès à la culture qu'on l'a maintenant. Comment tu faisais alors?
Alors, mes premiers contacts avec les BD, c'était les quelques BD que mes parents avaient ramenés de France. Mais je me souviens qu'au premier Noël, on m'offrait des bandes dessinées. Je réclamais, je pense, parce que on a des amis qui étaient venus nous voir à Tahiti et qu'au moment de leur départ, des amis de mes parents en fait, au moment de leur départ, ils avaient offert une BD à chacun des enfants. Donc, mes grands frères ont reçu chacun une BD. J'ai reçu une BD et je crois que mon petit frère a reçu une BD aussi.
Tu te rappelles de quelle BD c'était?
Alors moi je sais quelle BD c'était. C'était un Yakari, c'était le premier galop. Le premier galop.
Yakari de Derib.
Derib et Job. Et mes frères ont reçu un album de Torgal et un album de Herman, de Jérémia. Et cet album de Jérémia d'ailleurs, au moment où on en parle, il est derrière moi. C'est du sable plein les dents.
Ouais.
J'ai rapporté, je crois qu'il y a toujours la dédicace des personnes qui l'ont fait. Je pense.
Ah ouais.
Je pense que c'est celui-là.
Ah dis donc, il a une histoire.
Ouais, d'ailleurs j'en ai parlé quand j'ai eu la chance de rencontrer Herman.
Ouais.
Je n'ai pas hésité à lui en parler.
C'est génial.
Et en fait, ça a été mon premier contact avec la bande dessinée. C'est-à-dire que pour moi, c'était Yakari au départ que j'ai dit.
Ouais.
Je demandais à ce qu'on m'offre du Yakari.
On a toujours un rapport super affectif avec nos premières lectures, tu vois.
Exactement.
Moi je lisais Spirou quand j'étais petit, j'ai toujours ce rapport avec le magazine, avec le temps ça s'effiloche pas quoi, enfin tu peux prendre un peu de distance, t'intéresser moins, mais t'as toujours un œil bienveillant sur certaines choses quoi, si ça peut péricliter.
Et en tout cas, je me suis rendu compte d'un truc, petite parenthèse vis-à-vis de Michel Vaillant, quand je fais des séances de dédicaces, les lecteurs, je leur demande souvent s'ils connaissent Michel Vaillant depuis combien de temps, et quel a été leur album préféré. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que leur album préféré, c'est souvent... Il n'y a pas de statistiques.
Bien sûr, ouais. C'est au moment où tu découvres, comme Spirou et Fantasio, il y a eu des tas de dessinateurs. Franquin revient forcément super souvent, mais un mec comme moi, dans les années 80, on découvre ça, c'est Tom et Jean-Ry.
Exactement.
On s'en prend plein la tronche avec ça.
Les Spirou préférés, en effet, sont ceux de Tom et Jean-Ry, parce que c'est ceux que je lisais au moment où ils sortaient.
C'est pareil alors avec Michel Vaillant, les lecteurs c'est pareil
C'est ça en fait, les lecteurs quand je leur pose la question de leur Michel Vaillant préféré, ils me citent différents noms et à chaque fois je leur demande, et vous le lisiez à quel âge? Ça c'est celui que je disais, c'est celui que mon père m'avait offert quand j'avais 8 ans. Et en fait ça peut être des aventures très très différentes, mais il y a le goût de nostalgie, il y a le goût de découverte. Et pour moi c'est Yakari en particulier, mais en fait, à ce moment-là, donc, je commence à apprécier la bande dessinée, comme n'importe quel lecteur gamin, je crois. Et puis, quand mes parents vont faire les courses, eh ben, ils nous laissent à la librairie du supermarché. Et donc là, on dévore.
Il y a quand même une librairie spécialisée BD ou c'est une librairie littérature générale à Tahiti ?
C'était un continent, en fait, à l'époque. Un continent, donc l'équivalent de géant, casino, tout ça. Et il y avait un coin BD. Et en fait, là, mon petit frère et moi, on s'asseyait. On avait encore les jambes assez courtes pour pouvoir s'asseoir sur le bord de l'étal.
Ouais.
Et on prenait les BD. Et puis, plus nos parents mettaient du temps à faire les courses, plus on était contents. Et en fait, je pense que j'ai lu pas mal de choses là-bas. Mm-hmm. J'ai lu en particulier des Spirou.
T'as pu faire ta culture BD malgré tout à Tahiti. Il y avait quand... Non, mais t'as eu des lectures,
lectures.
Que Yakari, quoi.
Voilà. En fait, d'ailleurs, un point qui est important dans ce que j'ai cité tout à l'heure, donc j'ai découvert, on a offert à mes frères, alors que moi j'avais 4-5 ans, on a offert à mes frères. C'était Torgal et Jérémia. Et ces albums, je les ai ouverts, mais on m'a dit non, mais ça c'est pour les grands.
Ouais.
Donc je les ai ouverts un peu plus tard, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et j'avais fait un post sur Facebook à propos de ça quand Herman a été élu
Grand Prix d'Angoulême
l'année dernière. En fait, quand j'ai lu la première fois Du sable plein les dents, ça m'a foutu un coup de poing dans la gueule. Mm-hmm. J'en ai pris plein les dents.
Ouais.
Et ça a été ma première découverte avec la BD ado-adulte. Plutôt adulte.
En fait. Mm-hmm.
Parce que j'ai découvert soudain que, en fait, il n'y avait pas que des choses mignonnes, marrantes, un peu touchantes et tout. Non, il y avait des choses beaucoup plus noires. Je ne comprenais pas, moi. Ça m'avait un peu traumatisé à l'époque quand j'ai lu ça. Tout comme quand j'ai lu Torgal, je voyais des choses assez dures. Mm-hmm. En même temps, fascinantes, ça me fascinait. Je me souviens avoir lu énormément de Torgal, justement, quand on était à Cantina.
Ouais.
Il y avait quelque chose de très sombre, très une aventure très à la fois fascinante, mais que je sentais que c'était pas tout à fait pour mon âge encore. Ensuite ma culture BD a continué quand on rentrait en France dans la maison de mes parents. Il y avait des BD, il y avait encore des BD là-bas, et donc là c'était les Spirou, en particulier les Spirou Franquin. C'était aussi d'autres choses, des Astérix Obélix, effectivement. Mes parents étaient fans d'Astérix Obélix, donc ils achetaient les nouveaux, ils en avaient pas mal. Puis je crois que, en fait, j'ai lu très très peu de Tintin.
Ouais.
Vraiment très peu. J'ai plein d'amis qui me disaient, moi, ma culture BD, c'est surtout Tintin.
Je trouve que c'est un peu moins aussi, peut-être en France, parce que moi je suis de Belgique, mais on a un rapport différent avec Tintin, où on se situe géographiquement, tu vois. Alors ça reste une BD universelle, mais c'est quand même plus ancré dans le patrimoine belge et dans la culture belge que en France. On sait, il avait déjà un certain aura, Tintin, à l'époque, et puis il continue de l'avoir. Et il prend peut-être même un peu en puissance là maintenant, mais j'ai l'impression qu'en France, on était plus Astérix, le Gaulois, parce que c'est un Gaulois, que Tintin, qui est le petit reporter belge, tu vois.
C'est vrai que mes parents ont toujours acheté des Astérix, mais je me souviens pas les avoir vus acheter un Tintin. On en avait un ou deux, on avait L'île Noire, que j'ai lu 12 000 fois, parce que c'était toujours les mêmes BD qu'on relisait quand on était en vacances, parce qu'on avait que ces BD-là. En vacances, quand je dis en vacances, c'est-à-dire on rentrait en France.
Dans ta famille en France, alors,
ouais,
en Vendée.
En France, en Vendée. Et ces albums sont toujours là-bas, d'ailleurs.
Ah.
Et en fait, je me souviens que chez ma mamie, il y en avait un autre, c'était l'affaire Tournesol, avec cette fameuse couverture qui m'a marqué. Je la trouvais assez excellente, cette couverture où on voit du vert jaune éclaté et un tank qui passe derrière, avec des gens qui courent.
Ouais.
C'est une couverture très étrange, je trouve. Et en même temps, je la trouve assez géniale.
Ouais, et puis Tintin est de dos, en plus, sur cette couverture, tu le vois pas très bien.
Et rond avec tout ce qu'on nous demande de faire en couverture.
Oui.
Pourtant, bon, je pense que c'est le génie de. Bon, j'ai bien parlé de l'affaire Tournesol, pas L'île Noire.
Tu parlais de l'affaire Tournesol avec le cadre jaune, c'est bien ça.
Et L'île Noire, elle est toujours à la maison aussi, mais en fait, je m'en souviens pas trop. Même si j'ai lu plein de fois, je crois que ça me touchait moins. Et pour l'affaire Tournesol, je me souviens que j'étais marqué par le dessin des machines, des tanks, tout ça. Et quand j'y repense maintenant, quand je revois, je vois que c'est un dessin super synthétique, alors que pour moi, quand j'étais petit, je trouvais que c'était super compliqué.
Ouais.
Et Michel Vaillant, je l'ai découvert beaucoup plus tard, j'ai découvert quand j'étais adolescent, chez un cousin à moi. On empruntait des BD à la bibliothèque communale.
Ouais.
Et il avait un, et puis donc j'ai lu un ou deux Michel Vaillant là-bas, je sais absolument plus lesquels. Mais j'aimais bien.
T'aimais bien, mais ça t'a pas marqué outre mesure.
Si, parce que ça parlait bagnole et je trouvais ça cool. Enfin, une BD où on parlait de bagnole, vraiment de bagnole. Ouais. Parce qu'il faut dire que, effectivement.
Ouais, comme ton frère voulait être designer de bagnole aussi.
J'avais été touché par le virus à un moment donné.
Ouais.
Et moi-même, je voulais être designer de bagnole. Et puis en fait, non. Puis en fait, oui. En fait, je sais pas. Mais toujours est-il que j'étais fan de bagnole. Depuis tout petit, mon frère et moi, mon petit frère et moi, en fait, tous les ans, on réclamait à nos parents le magazine spécial Salon de l'Auto de l'Automobile Magazine.
D'accord.
Ou l'Autojournal.
Juste celui-là, en particulier.
Bah, celui en particulier, parce que déjà, c'était pas évident d'avoir les magazines à Tahiti. Ils arrivaient toujours avec 3 mois de retard à cause du bateau. Même plus que ça, 4 mois.
Ouais, ouais.
Bref. Et en fait, ce magazine-là référençait toutes les voitures du monde et tous les prix et les options et tout.
Uh-huh.
Et en fait, quand on était petit, eh ben, on passait des heures entières à potasser ce magazine et à regarder le prix des Ferrari, des toutes les voitures que tu
veux. Ouais.
Et en fait, c'est assez drôle parce que cette notion de prix, j'ai encore dans la tête le prix que coûtaient les bagnoles d'époque.
Ah ouais.
En francs français. C'est-à-dire que quand je vois une voiture dans la rue maintenant et que je me demande quel prix elle a, qu'on me dit le prix en euros, je dois convertir en francs français. Alors même que je payais en francs tahitiens à l'époque. Que je
savais
pas ce que c'était que le franc français. On payait en francs tahitiens franc tahitien, c'est 18 francs français.
Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander si c'était.
C'est pas le même
taux. Pas le même taux, d'accord.
Maintenant, ce truc des voitures, ça montre que déjà à l'époque, j'étais assez obsédé par les bagnoles parce qu'on potassait la même revue. Hein. Voilà, donc c'était comme ça que j'ai continué à aimer la bagnole. Et Michel Vaillant est arrivé là-dedans et c'était la première BD où je me disais ah mais c'est super en fait.
On peut faire les deux. On peut faire les deux.
Il parle de bagnole, il dessine de bagnole, c'est intéressant.
Ouais.
Et donc j'en ai lu cet été-là en particulier, je me suis dit quel été, ça doit être l'été 97, 98. Ouais.
Donc peu de temps avant que tu quittes définitivement Tahiti.
Alors j'ai quitté en 2002, donc c'était 4-5 ans.
Ah ouais, quand même, ouais.
Cet été-là, je me souviens que j'ai découvert Michel Vaillant. Après, je n'ai pas forcément demandé à mes parents d'acheter des Michel Vaillant. Parce qu'en fait, j'en avais lu déjà pas mal. Et puis, ce n'était pas non plus une obsession, mais il y avait plein de choses à la fois.
Ouais.
En fait, il se trouve qu'en 1998, on a eu notre premier ordinateur avec connexion Internet.
Oh.
Et j'avais eu des cours d'informatique à l'école. J'ai appris à mon père à me servir de l'ordi. Et surtout, comme on avait Internet, j'ai pu aller sur le site de la FNAC.
Ouais.
Et comme on était à Tahiti, il n'y avait pas la FNAC, les rares bandes dessinées qu'on pouvait acheter, elles étaient très chères et c'était un peu tout le temps les mêmes. Mais là, j'ai pu découvrir un catalogue en ligne énorme.
Ah ouais, il y avait déjà le catalogue en ligne sur le site de la FNAC à l'époque.
Voilà, il y avait la librairie en ligne de la FNAC, ça devait être en 98, 99.
Ah ouais, déjà, la vache.
Ouais. Et à cette époque-là, je parle de 99-2000, un truc comme ça. Et à cette époque-là, en fait, j'achetais un peu au hasard. C'est-à-dire, je voyais un titre, un dessin qui avait l'air sympa, et puis donc j'achetais avec mes petits sous de mon argent de poche.
Mais tu devais faire vachement gaffe, parce que j'imagine qu'il devait y avoir des frais de port de ouf.
Il y avait certains frais de port, ouais. Et d'ailleurs, je me demande même si mes parents n'ont pas fait genre, bon, tu payes les BD, on paye les frais de port.
Ah, d'accord. En fait, tes parents, là, de ce que tu me dis, ils ont toujours été bienveillants. À aucun moment, ils t'ont dit « c'est pas du sérieux, concentre-toi sur autre chose ». En fait, ils étaient aussi curieux que toi, visiblement, ou que toi, tes frères et sœurs.
En tout cas, ils ont jamais cherché à encadrer ou à réprimer les envies qu'on pouvait avoir ou les rêves qu'on pouvait avoir. Parce que mine de rien, on a tous fait à peu près les études qu'on souhaitait faire. Ma sœur voulait faire costumière de théâtre, elle a pu... Mon frère Sylvain, lui, voulait faire de la sculpture sur bois, tout ça. Mes parents l'ont laissé partir à 15 ans de Tahiti.
Ah ouais, même pas peur, quoi.
Ouais,
à aucun moment, ils lui ont dit, t'as 15 ans, c'est un peu jeune, peut-être.
Non, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Maintenant, il faudrait lui demander, mais il me semble qu'il a pu faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire, à 15 ans, il a traversé... Il a fait les tests d'entrée... Où c'était sur dossier, je crois. Ça depuis Tahiti, et puis il a envoyé ça en France.
Ouais.
Il a envoyé ça en France, et puis en France, on lui a dit qu'il était pris à l'école Boulle.
Mais il avait un point de chute quand même en région parisienne. Voilà, c'était pas non plus terrain inconnu complet.
Alors en fait, il y avait lui qui avait 15 ans et ma sœur qui en avait 19.
Ta sœur était en région parisienne.
Voilà, donc il était chez ma sœur.
Il était chez ta sœur.
Mais voilà, donc il a pu faire cette école et puis après continuer sa voie là-dedans. Et puis en fait, moi j'hésitais entre pas mal de choses. J'hésitais entre les sciences aussi, parce que mon autre frère, il a fait l'école polytechnique en France, donc c'était vraiment quelque chose de très différent, pas du tout artistique. Quand j'étais en terminale, la dernière année avant le bac, je je me suis dit que je voulais faire de la bande dessinée, alors que tout le monde était en train de s'orienter vers différentes universités françaises pour faire des études scientifiques poussées. Moi, qui à l'époque était dans les meilleurs de la classe en maths et en sciences, je me suis dit, non, je vais faire de la BD.
Ouais.
Ça faisait un peu ça ma faire de maths d'ouvrir des grands yeux, genre... Enfin, quoi.
Ouais, le potentiel gâché.
C'est un peu ça. Je me souviens très bien, c'était en seconde. J'arrivais d'un collège qui nous avait bien préparé au lycée. Mm-hmm. Et en fait, tous ceux qui sortaient de ce collège-là, on était plutôt bien préparés en maths en particulier.
D'accord.
Donc on arrivait avec des acquis. Oui. Et donc on plafonnait bien dans les premiers cours de maths. Et puis j'avais dit à ma prof de maths, qui était ma prof principale, que pour plus tard, j'aimais bien éventuellement faire du français pour pousser vers quelque chose de littéraire. Mm-hmm. Littéraire. Et puis, mes premiers contrôles, elle me dit, mais tu vas quand même pas faire ça, tu vas faire des maths, hein, c'est bien ça. Ouais, je pense que je vais faire des maths.
Pour lui faire plaisir.
Ouais, je me suis dit. Et en fait, mon cœur balançait entre les deux. Et il se trouve que, en fait, non, je voulais pas faire de la BD. Le dessin me plaisait beaucoup, j'avais déjà fait pas mal de BD, j'avais des potes qui faisaient un petit peu de BD, mais en amateur, hein, c'est-à-dire on remplissait des pages de carnet. Il y avait l'histoire en particulier du poisson Boom, c'est un petit poisson qui se transformait, qui faisait plein de choses.
C'est un truc que vous aviez inventé ?
Que moi j'avais fait, que j'avais déliré sur je sais pas combien de pages. Je dois avoir ça quelque part, bon c'est absolument pas...
Dans un style d'un poisson hyper réaliste alors ?
Non, pas du tout, absolument pas. Non, d'ailleurs, j'étais très mauvais, très mauvais en tout cas, je me cassais absolument pas la tête en dessin. Mm-hmm. Ce que j'aimais c'était raconter des histoires.
Ah.
Autant je me faisais chier quand je faisais des dessins de reproduction de bagnole, autant en dessin BD, à chaque fois j'allais à l'essentiel, c'était des personnages bâtons avec des bulles et puis plein de sang parce que j'aimais bien dessiner avec le feutre rouge. Je faisais l'histoire d'une sorte de pasteur post-apocalyptique qui tuait les gens à tour de bras. Je faisais ça dans mes cahiers de brouillon. À l'époque, les amis avec qui j'étais, ils aimaient bien dessiner aussi, mais dans le même style. On faisait des sortes de battles où on avait chacun un personnage qu'on mettait en scène et puis on butait le personnage de l'autre des manières les plus extravagantes.
Une sorte de cadavre exquis.
C'est ça, en fait, un cadavre exquis. Et puis on avait illustré comme ça des travaux qu'on avait fait en cours de français. Et je crois que c'est là qu'on a commencé à prendre un peu le dessin plus au sérieux, dans le sens où on se disait, c'est quand même sympa de dessiner, de faire des petits dessins comme ça. Et on a continué comme ça. Je crois qu'on se motivait pas mal, en fait, à dessiner, à faire des petits gribouillis comme ça, sans aucune velléité de beau dessin. Donc j'avais un pote en particulier qui avait un dessin qui se rapprochait un peu du dessin qu'on pouvait voir dans le joystick, le mec qui dessine les canards.
Le lapin dans Canard PC, là.
Le lapin dans Canard PC, ce genre de choses. Il était très influencé par ça parce qu'il lisait beaucoup ça.
D'accord.
Et il dessinait vachement bien pour son âge. Il a un très très bon humour. Moi, j'étais en admiration. Et en fait, c'était un style absolument pas réaliste. Par contre, on avait un prof de dessin, un vrai prof de dessin. C'est-à-dire que c'était pas le prof de français qui prenait sur ses heures pour faire du dessin. C'est quelqu'un qui savait dessiner. Et je pense qu'il m'a vraiment... Ça a été encore une pierre à la construction qui était en train de se faire sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire l'envie de faire du dessin. Et je me souviens très bien, donc j'étais en troisième. J'étais très bon, je pense, en tout cas. Le prof m'aimait bien, j'avais des bonnes notes et je m'amusais beaucoup. Et c'est là que j'ai formulé, que j'ai dit ça au prof. Je pense que j'aimerais bien faire du dessin plus tard. Je me souviens très bien de ça. Ensuite, il y avait le cinéma. J'avais très envie de faire du cinéma. Je faisais du théâtre, c'était un cours de théâtre amateur. J'en ai fait très longtemps, en fait, parce que j'en faisais déjà à l'époque. Et je me disais, je veux être réalisateur de cinéma. Donc,
tout de suite.
Je m'intéressais... Non, pas tout de suite, j'avais envie de devenir
Le but, c'était cinéma. Éventuellement ça, d'accord.
Voilà. Donc, il y avait la BD et le cinéma, mais surtout le cinéma. Je me disais, je vais faire des études de cinéma. Donc, j'en ai parlé à mes parents, oui, évidemment, faire des études de cinéma.
Ouais.
On va t'inscrire.
Même pas peur, les parents, encore une fois. Toujours très conciliants.
En tout cas, très ouverts et très... Ils ont toujours été, je les ai toujours trouvés assez justes dans leur éducation, c'est-à-dire que ils appuyaient là où il fallait appuyer et puis ils nous laissaient la bride sur le bout quand ils décidaient que ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi.
C'est ça.
Et en même temps, ils nous ont beaucoup aidés culturellement. Ils viennent d'un milieu où on met en valeur la culture et la curiosité culturelle. Donc en fait, on était abonnés à pas mal de magazines. Je bouquine, Sciences et Vie Junior, Phosphore, je me souviens. On recevait pas mal de lectures par mois, 4 ou 5 magazines différents par mois. Ça, c'était génial. Et puis, je découvrais plein de choses comme ça. Donc, je voulais faire du dessin, semble-t-il, mais je voulais faire aussi du cinéma.
Ton cœur balançait vraiment entre les deux à ce moment-là.
Voilà, je pense. Et puis, mais le cinéma me paraissait plus prestigieux, plus intéressant.
Ou du moins, le cinéma était peut-être quelque chose de plus concret dans ta réalité Tahiti que la BD où c'était...
La BD, je voyais pas encore. Le dessin, j'aimais beaucoup, mais la BD, précisément, pour moi, c'était encore assez flou, même si j'avais demandé, je me souviens avoir demandé à Noël des outils, enfin des rotrings, des choses comme ça. Mm-hmm. Je me souviens avoir essayé de dessiner comme ça, mais c'était encore assez flou. C'était vraiment... Je découvrais sur le tas. Par contre, bah, donc, c'était, je me disais, cinéma. Et en fait, on a failli m'inscrire à une école... un lycée avec une orientation cinéma à Paris, mais en fait pour différentes raisons c'était pas possible.
Et toi-même tu te sentais prêt à partir de Paris, enfin de Tahiti pour rejoindre Paris?
Tout à fait. En fait, j'avais deux grands frères et une grande sœur qui avaient fait ça, donc pour moi c'était logique.
Ah, c'était une suite logique.
Donc c'est normal.
Ouais, voilà.
Tu me posais pas la question en fait. Et finalement ça s'est pas fait, mais j'ai oublié les raisons, mais c'était une très bonne raison. Bon, bah j'ai fait un lycée normal.
Du coup, t'es resté à Tahiti jusqu'à tes 18 ans. Ça t'a pas frustré justement de te dire c'est une occasion manquée?
Oui et non, c'est-à-dire que sur le coup je me suis dit ah mince, et puis je sais, en fait il faudrait que je retrouve la raison pour laquelle c'était pas possible.
Mais c'était un gros truc ou c'était un petit grain de sable qui s'est mis?
Non, c'était un gros truc, j'avais pas fait les bonnes options avant, ou les inscriptions étaient déjà clôturées, ou je sais pas, une connerie, ou... Et, ou alors c'était 5000 euros par an, et puis là, mes parents ont fait « non ». Je sais plus. Mais en fait, donc je suis resté, mais en faisant contre mauvaise fortune cœur. Et en fait, là, donc, on se renseigne à propos de la FEMIS, et on se rend compte qu'il faut faire donc 3 ans d'études supérieures avant de rentrer là. Bon, bah, tant qu'à faire, je sais pas quoi faire pendant 3 ans avant de faire la FEMIS. Donc, y a une autre chose qui me plaît, c'est la bande dessinée.
Ouais.
Alors, je me dis, tiens, je vais faire une école de BD. Donc, je demande à mes parents, est-ce que ça pourrait être sympa? Et puis, ils me disent, oui, ça pourrait être sympa, être une bonne idée.
Ah ouais, toujours conciliant, alors.
Ah bah oui, toujours. Ah, oui, c'est
génial.
Bah, ils ont toujours été mon plus grand soutien, jusqu'à ce que je rencontre ma femme plus tard. Ils ont été du plus grand soutien par rapport à l'orientation professionnelle, parce que ils ont toujours cherché à nous donner les moyens de tester en tout cas ce qu'on avait envie de faire.
C'est ça.
De tenter ce qu'on avait envie de faire. Et il se trouve, donc là, alors je devais avoir 16 ans et demi, je suis en terminale, donc j'avais un an d'avance, donc j'ai passé mon bac à 17 ans et demi, donc je n'étais pas encore majeur, mais donc vers 16 ans et demi, ma mère, il se trouve qu'elle rencontre un parent d'élève, il lui apprend qu'il est illustrateur,
qu'il
est belge, et qu'il a fait l'école Saint-Luc.
Oh, ça alors
enfin, je résume, hein, mais en gros, ma mère découvre l'existence de l'école Saint-Luc.
C'est ça, Comme il faut encore resituer, t'as pas facilement d'accès à l'information, internet balbutiant, t'as quand même des moyens de trouver des informations et de te renseigner.
Oui, mais de manière beaucoup plus difficile en tout cas sur internet que maintenant.
Et la discussion
est tombée par hasard sur un mec qui a fait une école dans laquelle on apprend de la bande dessinée. C'est surtout ça qu'il lui dit, parce que ma mère donc lui parle, et puis elle se rend compte qu'en fait elle m'annonce le soir, au fait j'ai rencontré un parent d'élève qui est illustrateur, il a fait une école en Belgique et c'est une école qui fait de la bande dessinée. Ah bon? Je dis super, parce que pour une raison très simple, c'est parce qu'à l'époque toutes les écoles de BD que je connaissais en France étaient des écoles privées, donc avec des frais
super cher.
Des frais d'inscription assez élevés. Mmh. Que mes parents ne pouvaient pas se permettre.
C'est ça.
Et donc, on dit, la Belgique, ici, pour l'école Saint-Luc, les frais d'inscription ne sont pas du tout aussi élevés. Je rencontre ce gars, il me fait découvrir son travail, son atelier. Je me souviens très très bien de cette journée, en plus. Je me souviens de ce qu'on a écouté dans la voiture, je me souviens du temps qu'il faisait, je me souviens de comment c'était chez lui, je me souviens de deux, trois phrases qu'il me disait à l'époque. Mmh. Je crois que c'est resté bien dans ma mémoire, on devait être au mois de genre septembre-octobre 2001, un truc comme ça. Et en fait, donc j'étais en tout début de dernière année de lycée. Et là, je me dis, c'est clair, hein, moi je vais faire de la bande dessinée, je vais aller en Belgique.
Ce monsieur t'a convaincu
Pour moi, c'était tombé du ciel.
C'est ça, voilà.
Voilà. Je n'ai rien demandé du tout, ma mère est tombée par hasard dessus, et puis il nous a expliqué le truc, et je me dis, bon, c'est parfait.
C'est parti.
C'est parti. Non, mes parents étaient très confiants, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui me poussait aussi, hein, vu que mes parents derrière étaient, vas-y, c'est cool. Je pense que je ne me posais pas de questions, mes profs devaient se poser des questions, peut-être. Mais il se trouvait que cette école avait un énorme avantage, c'est qu'il n'y avait pas de concours d'entrée. Donc, il y avait une année préparatoire que tu connais.
Que je connais bien, là, Saint-Luc, la prépa de Saint-Luc, j'ai pratiqué.
En fait, l'année dont je parle, donc on est en 2001, ça se trouve que tu étais déjà.
Non, j'y étais déjà plus. Moi, je bossais déjà en 2001.
Pardon, autant pour moi. Donc, on se dit, c'est cool, on va pouvoir m'inscrire directement. J'ai toutes les chances d'y être, vu que de toute façon, ils ne refusent personne. Mm-hmm. Si t'es pas assez bon, ils te mettent en année préparatoire. J'arrive à Bruxelles avec mes parents, juillet 2002. Dans la même journée, on m'a inscrit à l'école.
Ouais.
J'apprends que... Ah ben non, cette année, il y a un concours d'entrée.
Ah,
bon, va falloir que tu le réussisses.
Ils ont instauré ce concours d'entrée parce que la prépa a disparu à ce moment-là, je crois.
Exactement. Et donc, mes parents me regardent en me disant, tu vas y arriver. Le même jour, on a ouvert mon compte et on m'a trouvé un code de rue Saint-Bernard.
La vache, t'as tout fait.
Ça c'est. Petit code de 12 mètres carrés.
Dis donc.
Et en plus, c'est le premier code qu'on a visité.
Mais c'est plein de changements brutalement comme ça. Ça te met une certaine pression, du coup, toi-même. En fait.
Il y avait une pression dans le sens où il ne fallait pas trop que j'y pense parce que sinon ça me foutait les boules. Mais en même temps, c'était « Mais non, tu vas y arriver, c'est bien. » Mes parents, mes parents et moi, on a passé les vacances en France avec ma famille. Donc, je suis avec ma famille en France pendant l'été. Et à la fin de l'été, mes parents repartent à Tahiti. Et moi, je repars tout seul à Bruxelles. Donc, je prends le train, le Thalys, et j'arrive avec je ne sais pas combien de kilos de bagages, 80 kilos de bagages, dans mon cote, tout seul. Je connais personne à la ronde à part les amis de mes parents qui nous avaient accueillis. Et je n'ai pas de téléphone portable d'ailleurs. Il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du
c'est
tout.
Ça.
Mais je suis là, voilà, il pleut. Et
tu vis le rêve. Tu vis le rêve, tu es à Bruxelles.
12 mètres carrés Bruxelles, ouais. Et on était le 1er septembre 2002. Et donc je me souviens de ce truc-là parce que je venais pour faire les deux semaines de préparation à l'examen.
C'est ça.
Voilà. Que j'ai fait. Et en fait, mes parents étaient censés avoir mis des sous sur mon compte pour que je puisse...
Pour bouffer, tout bêtement, quoi.
On était le dimanche. Et en fait, j'avais un découvert de 6 euros sur le compte.
Quoi?
Comment c'est possible d'avoir un découvert?
Je viens d'ouvrir mon compte en banque et je suis déjà en négatif.
Je peux rien faire, qu'est-ce que c'est? Et forcément, j'ai pas de téléphone portable, j'avais pas d'internet, donc j'allais dans un faux café. Il se trouve qu'un de mes frères m'avait dit, mon frère qui m'a accompagné à la gare de Paris-Nord m'a dit au moment où je pars, t'as des sous sur toi? Non, là j'ai rien. Non, mais t'inquiète, après, pas de problème. Mais attends, je vais quand même te filer 10 euros, on sait jamais. Et c'est grâce à ces 10 euros que j'ai pu
manger. Les 10 euros qui ont sauvé ta vie.
Qui ont sauvé en tout cas mes premières 24 heures. Parce qu'en fait, je le savais pas, mais les sous mettaient du temps à arriver.
Ah ouais.
Ils sont arrivés le mardi matin. Et en fait, la journée du lundi, donc je suis arrivé à la banque, je regardais ça, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai demandé des sous à emprunter à mon voisin de côte pour me payer un durum, je crois. J'ai découvert ce que c'était qu'un durum.
Le durum, ouais.
Voilà,
le kebab belge.
Donc je faisais connaissance en même temps avec mes voisins de côte qui m'ont un peu dépanné. Et en fait, j'ai bien flippé. J'ai envoyé un email à mes parents, sachant que l'email, ils le verraient le lendemain. J'étais là, je m'étais senti quasiment SDF où j'avais rien sur moi.
C'est ça.
Je pouvais rien acheter, je venais d'arriver. Et je savais pas quoi faire. Et en fait, chaque fois que je tentais d'entrer en communication avec quelqu'un, ça me coûtait des sous. Si j'avais le phone café pour essayer d'appeler
ou
pas. J'avais claqué 5 euros pour acheter une carte pour appeler à l'international. Je ne savais pas comment ça marchait. Je suis allé dans une cabine téléphonique qui n'était pas vraiment en service. J'ai jamais su faire marcher cette carte. J'avais dilapidé 50% de ma fortune.
C'est ça, voilà, ouais. Tu l'as gardée, cette carte, en souvenir.
Ah, mais bonne question. Si ça se trouve, elle est encore planquée dans des affaires que je garde. En souvenir.
Dans les souvenirs.
Et donc, le mardi matin, je reteste à la banque et là... Les sous de mes parents étaient arrivés, l'histoire et tout. Bon, j'ai pu m'acheter un téléphone portable et faire les choses bien. Et en fait, d'ailleurs, j'ai reçu deux emails. Un premier email qui disait bonjour mon garçon, alors tu devrais avoir reçu. Maintenant, tu peux faire ci, ça. Donc, il m'expliquait plusieurs trucs. Et l'email juste après, on n'avait pas vu ton email, dis donc.
La joie dans un mail et la réalité dans l'autre.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai débarqué à Bruxelles. J'avais 17 ans. J'avais eu une émancipation de mes parents pour avoir le droit de faire des choses de
Ah ouais, en plus de ça. Donc, voilà. T'arrives à Bruxelles, t'as pas encore 18 ans, pas encore 18 tu fais ans. Des études supérieures, l'examen se passe, heureusement ça se passe bien.
Oui, il y avait 70, en gros il y avait 70 inscrits et 44 pris. En fait, je pense que j'ai gagné mon inscription très simplement. J'avais déjà fait, j'avais essayé de faire des recherches BD, tout ça pour montrer comment je dessinais, mais parce que tout était dans une caisse qui venait par bateau et j'avais pas encore mes dessins qui venaient de Tahiti. Donc j'avais ça, mais je dessinais, enfin... Ouais, en fait, ce moment était un peu stressant, c'était le moment de l'examen oral, l'examen de motivation. Mmh. Parce que les examens écrits, tout ça, bon, c'était la connaissance générale, tout ça, pas de problème.
Mais il y a des examens artistiques aussi, ils te demandent de faire des dessins ou des gouaches ou autre chose.
Il y avait un examen artistique.
Ils testent ton niveau.
Oui, c'est ça. Mais c'était très simple, on était tous dans une grande salle pour toutes les sections différentes. Et on nous a dit, le thème, c'est l'eau. Vous avez 7 heures pour faire quelque chose sur l'eau.
Ok, donc, juste ça comme indication. On te dit, c'est l'eau, fais ce que tu veux.
Voilà, vous avez 7 heures. Ils nous disent ça, genre il était 8 heures du matin et ça finissait à 15 heures. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une BD. J'ai fait 3 histoires sans parole sur l'eau. 3 planches. Et à la fin de la journée, je me suis rendu compte que faire 3 planches en 7 heures, c'était quand même...
Ça prend du temps, ouais.
C'était mes premières planches, j'avais jamais vraiment... Plus. En fait, non, c'était pas mes premières planches, mais c'était... les premières fois que je prenais ça vraiment au sérieux.
Parce c'est que la première fois qu'on te fait une commande en quelque sorte.
Voilà, où j'avais une sorte de thème que je devais développer de manière plus ou moins sérieuse. Et donc là où j'ai de toute façon marqué des points pour l'interview de motivation, c'est très simple. Donc j'arrive devant les 3 profs et puis je leur dis bonjour, tu viens d'où ? Je viens de Tahiti. Ok, bon, lui, il est motivé.
Il est motivé, allez, on va le prendre. Il a fait tout ce chemin pour rien. C'est pas pour rien qu'il ait fait tout ça, ouais.
Je pense que rien que pour ça, j'ai gagné beaucoup de points parce qu'ils se sont dit, ouais, attends, ce mec, il a traversé la moitié de la Terre pour venir dans cette école, on va pas lui dire non.
Voilà, ouais.
Il dessine comme une merde, il aura le temps d'apprendre. Ouais,
au moins, on va pas gâcher... son rêve de faire de la BD, on va le prendre.
De
toute façon, il avait rien prévu l'année qui vient, autant qu'il reste ici.
Exactement, je m'étais inscrit nulle part ailleurs. Sans ça, ma vie aurait été très différente. On était en septembre 2002 et j'étais à Saint-Luc. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, je fais de la bande dessinée.
C'est ça, ouais. L'école après en elle-même, parce que Saint-Luc a quand même cette réputation d'école artistique. On t'apprend pas à faire une série à Saint-Luc, non. C'est ça que je veux dire.
En effet.
Toi, t'avais plus dans l'optique de faire une série alors ?
En fait, c'était particulier parce qu'en effet, à Saint-Luc, le discours est un peu, et je pense que ça va être le cas dans beaucoup d'écoles d'art, le discours des profs est un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'à la fois, ils disent « Non, découvre par toi-même, fais tout ce que tu veux. Il faut, en gros, ils nous poussent à être des artistes, à faire de l'art et faire des choses personnelles. » Et à la fois, nous, on est jeunes, les élèves, on est jeunes, on a aucune expérience, on ne reproduit que ce qu'on nous montre et ce qu'on connaît.
Ouais.
Donc, soit on a déjà une culture de base et on continue là-dedans, soit, je faisais ce qu'on me disait, moi. Je savais pas dessiner. Je me souviens très bien du premier exercice de BD où il fallait faire des personnages. Parce que le premier exercice de BD tout court qu'on devait faire, c'était un travelling sans personnage dans le palais de justice de Bruxelles.
Ouais, ça, c'est le truc qu'on te fait tout de suite. Hein. Ouais, évidemment, j'ai fait ça aussi.
Voilà. Et en fait, après, le premier truc avec personnage, je me souviens de venir voir un des profs et lui avoir dit « En fait, je dessine comment la dame ?» Puis il me regarde en comprenant pas trop. Qu'est-ce qu'il me raconte ?
Qu'est-ce qu'il
veut ? Tu la dessines, quoi. Tu dessines le personnage.
Ouais.
Mais comment ? Dans le sens, je sais pas, un style humoristique, un style réaliste.
Ouais,
style,
parce que pour toi, la BD, c'était large, quoi.
Pour moi, c'était super large et je n'avais aucun style.
Et
j'avais pas de style.
T'attendais un truc plus scolaire, justement, où tu te disais comment faire.
Exactement,
précisément,
parce que je n'avais, comme quand je dis je n'avais aucun style, je n'avais pas de style. Je pouvais essayer d'imiter un style, essayer d'imiter un côté humoristique. Là, c'était un peu gros nez ce que j'ai fait pour le premier truc. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment. Je savais pas ce que je voulais dessiner exactement, comment je devais le dessiner. Donc j'absorbais comme une éponge tout ce qu'on me proposait.
Ouais.
Et en deuxième année de BD, on a eu nos premiers cours d'anatomie. Les cours d'anatomie, pour moi, ont été une révélation parce que là, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire.
Ouais.
Je veux savoir dessiner un corps humain dans tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui marche et tout.
Mais en première année, il n'y a pas des cours de modèle ?
Il y avait des cours de modèle vivant, si, bien sûr. Et donc la première année, on a fait du dessin nu, on a appris les proportions du corps humain, on a appris la perspective, des choses comme ça, mais des choses très très basiques.
Ouais.
La deuxième année, on avait un vrai prof d'anatomie, Stéphane Delongré, il s'appelle, Je dis son nom avec plaisir parce que c'était, oui, j'ai gardé un excellent souvenir de ce prof-là.
Mm-hmm.
Le truc marrant, c'est que ce mec-là, donc, il voit, il me dit, ah, mais toi, tu as vécu à Tahiti, c'est ça?
Mm-hmm.
Il me dit, ben, je connais quelqu'un qui a habité à Tahiti. Enfin, j'ai plus de contact avec lui depuis un petit temps, mais puis moi, je lui dis, il s'appelle Thierry Fierin. Puis il me dit, ouais, c'est ça, ouais.
Le mec que t'avais rencontré connaissait le prof de Saint-Luc.
Le prof d'anatomie de Saint-Luc. C'était assez bizarre parce que donc il me dit, ouais, je connais quelqu'un. Il s'appellerait pas Thierry Fierin, pas Saint-Luc. Et en fait, c'était vraiment un cours très intéressant pour moi parce que j'ai vraiment absorbé les bases de l'anatomie en me disant, faut vraiment, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de faire.
Mm-hmm.
Donc j'allais vers un dessin réaliste en fait. Et avec la perspective, pareil, j'avais tendance à essayer de faire des choses plutôt réalistes, mmh, dans la perspective et le décor. Et en fait, je sentais que les profs de BD, ça leur plaisait pas trop. Parce que,
oui,
en fait, quand je faisais un dessin plus réaliste, ils me disaient non, ça c'est pas intéressant. Je trouvais ça plus intéressant quand j'avais un dessin qui poussait plus vers la caricature. Je trouvais ça plus personnel. Je pense que ça me rassurait davantage d'aller vers quelque chose de plus réaliste parce que je savais quel était mon modèle.
Ouais.
Si je faisais quelque chose d'humoristique, il fallait que je pompe des artistes qui existaient déjà.
Mmh.
Ce avec quoi j'étais pas super à l'aise, parce que j'avais toujours l'impression de pas forcément comprendre ce que je faisais en fait. Quand tu pompes le style d'un artiste, ton niveau graphique fait un bond, mais tu restes stable là, enfin tu restes bloqué là, parce qu'en fait tu ne fais qu'imiter une synthèse qui a déjà été faite,
ouais.
Que tu comprends pas forcément.
Tu déformes un truc existant, et après on te dit t'es un sous
ouais,
machin,
après on te prend plein la gueule. Hein,
on te met vite une étiquette aussi.
On te met vite une étiquette, etc. Mais surtout, c'est un truc qui à court terme te fait faire d'énormes progrès, mais à long terme te sclérose dans un truc. T'as un style gros nez, bah t'es bloqué dans le gros nez, et voilà. Ici en fait, moi ce qui m'intéressait, c'était plus de me baser sur des choses genre de la doc photo, des choses comme ça.
Mmh.
Quitte à avoir un dessin plus froid et plus moins intéressant d'après le prof.
Tu savais ce qu'il fallait représenter à ce moment-là, ça te cloisonnait peut-être
ça
d'une certaine façon.
Exactement.
Mmh.
C'était plus rassurant pour
mais
moi.
Mais c'est pas un peu réducteur du coup, parce que t'as envie de t'exprimer quand même malgré tout. Le style réaliste permet quand même de t'exprimer.
Ben pour moi oui, parce qu'en fait ce qui m'intéressait c'était surtout le scénario et le storyboard, mais après le style réaliste c'était ce qui pour moi était le plus simple.
Mm-hmm.
C'était un truc de facilité.
Mais c'est une représentation. C'est une représentation de la réalité. Est-ce que tu arrivais quand même à te l'approprier et à en quelque chose?
Ça, je sais pas si j'arrivais à me l'approprier. C'était maladroit, hein. C'était vraiment. Mais je savais que j'étais inspiré par des choses comme le dessinateur de Largo Winch,
mm-hmm,
que mes profs détestaient.
Ouais, forcément, c'est mal vu.
Michel Vaillant, tout ça.
Ouais.
D'ailleurs, c'était à l'époque que j'ai dessiné à un moment donné dans une BD. Je dessine sur une case une moto qui fait un gros roi, et dans la case suivante il y a une Ferrari, en fait c'est la prochaine, uh-huh, qui a une Ferrari, et mes profs regardaient ça avec un petit sourire, et je sais plus qui dit autour de moi, ah bah là t'as fait du Michel Vaillant.
Ah, forcément.
Et après on a commencé à m'appeler Michel Vaillant comme
ça. D'accord.
Et pour un peu se foutre de ma gueule et du fait que je dessinais des voitures qui allaient vite et des voitures rouges dans mes BD, parce que
et
bon, c'était un peu mal
tu
vu.
Disais je vais me venger plus tard, vous verrez.
Non, je me disais rien du tout, je trouvais ça marrant, je me disais non mais il m'appelle pas Michel Vaillant, ouais. Mais je... Personne dans le monde n'aurait été capable de dire à ce moment-là que 10 ans après, je faisais les aventures de
Michel. C'est ça, ouais, le truc improbable, quoi.
Non, et j'ai trouvé ça très drôle, d'ailleurs, quand j'ai commencé à le dire autour de moi.
Surtout, tu l'annonces à tes potes de
Exactement.
Saint-Luc. Hey, tu sais quoi, maintenant, je fais Michel Vaillant.
D'ailleurs, parenthèse, mais les potes de Saint-Luc qui se gaussaient de ce surnom à l'époque, quand je les ai revus et que j'aurais dit que je faisais Michel Vaillant,
mm-hmm,
je me souviens, leur attitude avait changé.
Ouais.
Parce que finalement, à l'époque, on était jeunes et étudiants, mm-hmm, et on ne savait pas ce qu'on allait faire plus tard.
Ouais.
Et puis ensuite, quand la réalité nous a touchés de plein fouet en sortant, mm-hmm, de là qu'il fallait gagner notre vie, c'est toujours facile. Et si jamais tu as un boulot BD payé, quand ils ont vu que tu fais Michel Vaillant, ah, c'est cool, tant mieux pour toi, genre t'as un boulot, c'est super.
C'est ça.
L'air sérieux qu'il disait en disant ça était contrasté vraiment avec l'air Michel Vaillant.
Forcément, t'as pas la même attitude quand t'es étudiant, ou c'est à la provoque, c'est je vais être un artiste, moi, monsieur.
Exactement.
Et après, effectivement, comme tu dis, la réalité te revient en pleine poire et il faut gagner sa croûte.
Voilà, moi je suis très content de gagner ma croûte comme ça,
ouais,
dit en passant.
Non, évidemment, il y a pas de honte à avoir après.
Alors, Je suis très content. Je suis très content d'être arrivé là. C'est marrant parce que c'est l'exact inverse de ce vers quoi on me poussait à Saint-Luc.
Oui, mais c'est ça. En fait, à Saint-Luc, il te poussait pas du tout à faire une carrière d'une certaine manière. Il voulait que tu t'épanouisses en tant que dessinateur, mais il formait pas vraiment à la réalité du monde éditorial par
oui.
après.
Oui, oui, en effet, ça c'était un travers de l'époque. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Peut-être que les profs de maintenant sont plus ont plus tendance à orienter vers une professionnalisation. Je ne sais pas, c'est toujours un débat un peu particulier parce qu'ils ont toujours peur de trop cloisonner les élèves en leur disant trop bon, bah, vous allez faire du 46cc,
46 couleurs cartonnées. Le format normal, le classique.
Pour moi, le réalisme était un truc vers lequel je coulais naturellement, mais c'était justement pas parce que ce vers quoi les profs me poussaient, mais en même temps. C'est là que j'avais l'impression qu'il fallait que j'apprenne. Plus j'apprenais à avoir un dessin réaliste, plus je pouvais éventuellement désapprendre et faire de la synthèse. Ouais. C'est toujours le point de vue que j'avais. Je me disais, comme Picasso, on nous a d'ailleurs montré des dessins de Picasso quand il était jeune, il dessinait magnifiquement bien. Mmh. Il fait des volumes, il fait des dessins de nus absolument superbes avec des volumes à tomber par terre. Pareil pour Franquin d'ailleurs, ces dessins de nus sont magnifiques, mais leur style à eux, qu'on connaît, est un style qui n'est absolument rien de réaliste, surtout Picasso, hein, il connaît pour avoir un style presque maladroit. Moi je me suis dit, si je veux un jour avoir un style, il faut d'abord que j'apprenne à dessiner le plus dur possible.
T'apprends pour désapprendre.
Exactement, c'est ce que je pensais, je crois que j'étais le seul à penser comme ça dans ma classe.
Le discours habituel, c'est plutôt « vous devez oublier tout ce que vous avez connu ».
Oui, mais je connaissais rien, moi. Ouais. Je pouvais rien dire.
Donc, en fait, tu connaissais rien. Il fallait que tu apprennes des trucs pour les désapprendre après.
Exactement. Il fallait que j'apprenne comme une éponge. Comme je dis, en arrivant à Saint-Luc, je ne savais pas dessiner. J'étais vraiment... Je n'avais aucun style. Je ne savais pas dessiner. Et donc, ça a été comme une éponge. J'ai absorbé tout ce que je pouvais. Et en sortant de là, encore une fois, grâce à mes parents, j'ai pu continuer. En fait, à faire de la BD sans me poser de questions.
Mais donc, les 3 années de Saint-Luc, c'est en 3 ans, les études à Saint-Luc.
C'est ça, 2002,
ça se passe bien pour toi, alors ? T'as pas de difficultés majeures ?
Ça se passe très bien, pas de difficultés majeures, parce que de toute façon, j'ai toujours été un élève sage qui prenait des notes en cours théorique, donc j'avais pas de problème en cours théorique, puis je passais mes notes aux copains qui n'avaient pas pris cours.
Ah, t'étais le bon élève, alors, copain qu'il fallait...
Je leur disais, si t'es capable de déchiffrer ce que j'écris, tant mieux pour toi.
Tu mérites mon amitié si t'arrives à me déchiffrer.
Non, c'est pas ça, c'était juste. Benjamin, est-ce que je peux avoir tes notes Bon, oui, tiens, faut te copier là. Par contre, je te les lis pas. Hein, mais si tu...
Ouais, débrouille-toi.
Débrouille-toi.
Au moins, moi je vais au cours, toi tu fais pas cet effort-là.
Donc j'ai filé mes notes à une bonne partie de. Enfin, à plusieurs élèves.
T'étais le syllabus, donc les cahiers de notes, c'était toi.
Ouais, bah en fait, je pense que j'étais un des 2 ou 3 à prendre notes régulièrement.
Après, vous vous retrouviez au cours théorique, vous étiez 4, il y avait ça. Toi, et tout le restant de la classe ne venait pas.
Les autres qui dessinaient.
Benjamin y va, c'est bon.
Non, mais on y allait tous parce qu'on était des enfants sages quand même, la plupart. Mais la plupart dessinaient, ils écoutaient, mais ils dessinaient et puis ils prenaient pas forcément notes. Donc, arrivé aux examens et qu'il fallait réviser, j'ai pas pris notes des cours. Et donc, mes cours ont été un peu photocopiés à l'époque. Et un truc marrant, c'est que le prof d'histoire de l'art, quand j'étais en dernière année, même un peu plus tard, non, je crois que j'ai recroisé un peu après Saint-Luc, et qui m'a dit « Ah oui, j'ai vu des photocopies de tes cours encore les années suivantes. »
Ah ouais, d'année en année, en fait.
Je crois qu'ils si ont bien sur...
si c'est encore ce prof-là, il y a encore tes notes qui traînent dans les amphis.
Ça va être bien dégueulasse.
Photocopier, comme un CD que tu graves avec, ou une cassette. Que tu enregistres, que tu réenregistres.
Il se trouve qu'après, quelques années plus tard, quand j'ai rencontré des élèves de Saint-Luc, ils avaient trouvé un moyen beaucoup mieux pensé grâce à Internet. Ils avaient fait un forum en ligne et puis ils mettaient leurs notes en commun. Ça, c'était beaucoup plus malin.
Ouais.
Je pense que si j'avais.
Ah oui, à l'époque, si on avait su.
À l'époque, on photocopiait.
C'est ça, 2000, voilà.
Plan 2000 faisait
fortune. Plan 2000, ouais. Merci, voilà. Plan 2000.
Donc là, les examens, ça se passe bien pour le théorique. Et pour le pratique, il n'y avait aucun problème.
Malgré que tu fasses pas ce qu'ils attendaient de toi, de l'expérimentation, ou c'était un bras de fer alors
Non, c'était pas un bras de fer.
Pas trop.
Non, honnêtement, j'étais très conciliant, j'étais très gentil, j'essayais d'être très gentil avec les profs, et les profs, je pense qu'ils m'aimaient bien, et ça se passait très bien, j'avais des bonnes notes. Après, ils étaient pas forcément fans de tout, mais ils allaient pas saquer les gens juste parce qu'ils aimaient pas ce qu'ils faisaient, il fallait un peu d'arguments derrière.
Ouais.
Le jury de fin d'année de dernière année, ça s'est bien passé, mais j'ai pas rencontré de. Enfin, contrairement à d'autres années, il y avait
le membre du jury de ta dernière année, ils ont été
Ah, ils ont été très très corrects.
Sympa et correct, ils ont bien apprécié ton travail ou
t'as eu... C'était apprécié, oui, ou comme ça, quoi. Je n'ai pas fait des flammes non plus, mais c'était pas catastrophique du tout.
Mais t'as eu ton diplôme, quoi.
J'ai eu mon diplôme.
T'es sorti diplômé.
J'ai dû avoir. C'est la distinction.
Distinction ? Ah, bah, t'étais pas un manche alors, enfin, t'étais pas un mauvais élève. C'est un bon pédigré.
Ouais, voilà. Mais parce que j'étais, je te dis, c'est parce que j'étais un élève sage en cours théorique, donc ça rattrapait tout ce que je pouvais éventuellement faire à côté. Mais en même temps, faire des bonnes notes à Saint-Luc ne signifie absolument pas réussir.
Ouais, c'est ça. Mais ta vie d'étudiant de bande dessinée à Bruxelles, comment ça se déroulait durant ces 3 années? T'as rencontré du monde, t'as eu un cercle de... vous vous motiviez l'un l'autre. Un milieu étudiant très sympa, alors...
Ouais, milieu étudiant très sympa, en tout cas dans le groupe dans lequel j'étais. Les groupes dans lesquels j'étais, parce que en gros, j'ai gardé contact avec à peu près la moitié de la classe.
Ah, malgré tout, ouais, c'est rare.
Grâce à Facebook, en tout cas, j'ai gardé contact avec une bonne partie de la classe. Une grosse partie de la classe.
Ouais, ça aide.
Et en fait, ça se passait très bien. En première année, je connaissais absolument personne. Donc, je m'incrustais l'air de rien dans les groupes de parole, dans les groupes de gens qui parlaient en souriant. Puis les gens me prenaient pour un mec bizarre, qui apparaissait derrière avec un petit sourire, genre... est-ce que vous voulez être mon ami?
Ouais, c'est ça, voilà. Tu quémandais l'amitié.
Je grattais l'amitié.
Ouais, voilà.
Et en fait, non, j'avais pas vraiment d'amis. Il se trouve que.
C'est triste.
J'avais pas encore d'amis, tu vois.
Au mois de... Bah, tu débarques dans une nouvelle ville.
Je débarque dans une nouvelle ville, je connais personne.
Tu connais personne, tu vas commencer des études dans un milieu que tu connais à peine.
Exactement. Et en fait, il a fallu attendre après Noël pour que je commence vraiment à me rapprocher d'un groupe. C'est le groupe dans lequel était Alex de la Serne. Alex de la Serna, Hélène Lenoble, il y a aussi Pierre Leroy, il y avait Jacques Louis dans le groupe-là, et il y avait Mathieu Bléron qui lui n'a pas continué en bande dessinée, enfin il me semble. Ce groupe-là, c'est devenu mon groupe d'amis les plus proches tout le reste de ma scolarité.
Vous êtes restés soudés.
Voilà, on est restés soudés. Puis il y avait des guests aussi, des personnes
qui étaient dans le groupe
qui ne passaient pas à l'atelier. Quand je dis groupe, c'est qu'en fait les tables d'atelier, c'était des grandes tables, et en fait ça faisait des sortes de cercles comme ça. Et il y avait différentes pièces, c'était pas une grande salle, donc finalement c'était comme des pièces d'appartement et on se mettait dans telle pièce plutôt que dans telle.
C'était où les bâtiments? C'était rue américaine?
C'était rue Wilmot en fait.
Rue Wilmot, déjà à ce moment-là, ok,
rue
oui.
Wilmot, mais dans une sorte d'appartement.
Dans une maison de maître, dans la rue qui descend là.
Pas dans la rue qui descend, c'était la rue Wilmot.
T'as l'angle.
Elle est droite, la rue qui descend c'est la rue d'Irlande.
Oui, ok, je confonds alors.
Mais toujours est-il que on avait notre petit groupe de.
Donc l'espace, c'était. Un étage d'une maison.
C'était un étage, ouais.
C'était pas.
Étage-là, il y avait BD, l'étage en dessous, il y avait illustration, par exemple, ou publicité, je sais plus.
Enfin, mais c'était. Étage, il y avait... C'était un bâtiment dédié pour faire des études, ou bien c'était une maison qu'ils ont aménagée pour faire des classes.
Je pense que c'est une maison au départ qu'ils ont aménagée pour faire des salles de classe, c'est-à-dire qu'ils avaient enlevé les portes quasiment, et puis les pièces étaient vides, et t'avais des tables.
Mais c'est ça que tu dis qu'il y a des petites pièces et des recoins où vous vous retrouviez en groupe à un certain endroit.
C'est
alors.
Ça. Et il y avait par exemple le groupe de Thomas Gilbert, Léonie Bischoff, qui maintenant, ils sont connus aussi.
Qui font leur carrière chez Casterman aussi.
Voilà, avec Nicolas Pitts, Jérémy Royer, chez Dargo, et Yu Nguyen, qui tous ont continué la bande dessinée, ça c'est assez super. Maintenant, c'est eux qui font l'atelier 1000.
Oui.
Il faut savoir que ces gens. Oui, je balance, je suis un fou, moi.
Vas-y, c'est l'instant où on balance.
Ces gens, ils étaient déjà ensemble, c'était déjà ce groupe-là, donc ça remonte à 2002-2003. Et je me souviens qu'ils étaient dans une autre pièce.
Et ils sont restés.
Et ils sont restés en groupe comme ça, parce que leur atelier, l'atelier 1000, c'est ce groupe-là.
C'est le même groupe depuis les études.
C'est le même groupe depuis
les études. C'est dingue. Ouais, t'imagines, il y aurait eu quelqu'un d'autre. Imaginons Thomas Gilbert se serait mis à un autre endroit, à votre table par exemple, et ça aurait été complètement différent.
On aurait tous dessiné comme lui, c'est des choses assez bizarres, tu sais pas pourquoi tu commences à parler à tel
c'est des trucs,
tel autre.
Ça se calcule pas.
Voilà. Il se trouve qu'ils avaient un style graphique qui correspondait en fait, entre les différentes personnes du groupe. Ils avaient un style qui avait une certaine cohérence.
Ils ont une filiation graphique en tout cas qui était plus évidente, toi t'avais... Ouais. Pas vraiment de repères.
Non, et en fait, moi, j'étais plutôt avec les gens qui dessinaient de manière un peu plus réaliste. On était dans un groupe qui était finalement aussi pas mal accordé, quoi.
C'est ça, ouais.
Et donc, scolarité sans trop de problèmes, sans aucun excès, d'ailleurs. On faisait pas beaucoup de soirées ou de beuveries ou je ne sais quoi. J'étais pas, en tout cas, dans ce groupe-là.
C'est ça. Il y en a qui le faisaient, ouais. Tu t'intéressais au milieu de la BD, à ce qui se faisait... à ce moment-là, aux maisons d'édition.
De plus en plus. Bah, j'ai acheté énormément de BD à l'époque.
Et ce que t'as pas pu acheter avant, t'as dû découvrir ça avec un nouvel œil.
Forcément. Et en fait, par rapport à mon style de dessin, je me souviens d'un truc justement, on s'offrait des BD à nos anniversaires respectifs. Donc.
Ouais.
Et les premières choses que m'ont offert ce groupe dont je parle, en fait, ils m'ont offert le vol du corbeau et le sursis. Je crois que c'est le sursis qu'ils m'ont offert. Et j'ai acheté le volume corbeau ensuite. Le sursis diptyque.
De Gibra.
Et je me souviens que je me suis pris une grande baffe dans la gueule quand j'ai vu ça. Ça a certainement très fort influencé aussi mon style et mon envie de vouloir faire du réalisme. Parce que lui, c'était un style plutôt réaliste.
Ouais.
Donc j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Je trouvais ça vachement séduisant. Il y avait aussi Frank Miller qui m'avait beaucoup.
Ouais, mais là, c'est plus pour l'aspect graphique, alors.
Là, c'est l'aspect graphique.
Et la narration.
Je ne suis jamais allé vers du Frank Miller.
Non. Tu te nourris de plein de trucs à ce moment-là, parce que t'es en recherche en permanence, t'es ouvert. Tous tes chakras sont ouverts pour la BD aussi, tu vois.
Exactement. Donc, je découvrais tout. Depuis, il y a des choses qui sont devenues des classiques, en fait, ces trucs-là. Et
ouais.
Justement, le vol du corbeau et le sursis, c'est...
Et puis, il y a eu un boom aussi au niveau des sorties chez les éditeurs. Du moins, moi, je l'ai constaté.
C'était juste avant 2016.
Il y avait une bulle. Plein de maisons d'édition qui... C'est à ce moment-là qu'on a commencé de parler de la surproduction après 4 ou 5 ans. En début 2000, il y avait vraiment un essor de la bande dessinée. Les titres ont été multipliés par X.
C'était bien aussi, c'était tous les éditeurs indépendants, enfin tous les petits éditeurs. C'est l'essor de l'association.
Oui, c'est ça.
L'association commence à faire des cartons avec
Marjane Satrapi, oui.
C'est aussi une époque. Et puis aussi l'époque du manga, parce qu'à l'époque, le manga est en pleine force. Mm-hmm. Tout le monde commence à acheter et lire des mangas, il y en a partout. Donc c'est, pour moi, en tout cas, c'est une époque qui me convenait tout à fait pour découvrir la bande dessinée. On s'en offrait à Noël, aux anniversaires, j'en achetais pas mal à côté au Skull. Et donc voilà, on est en 2005, je sors de là et je sais que je veux continuer à faire de la BD, parce que là, dans ma tête, le cinéma, finalement, ça avait tombé un peu. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Donc, peu importe le médium, j'avais envie de raconter des histoires. Il se trouve que là, on m'avait donné l'occasion de travailler un outil qui était le dessin pour raconter des histoires en images avec la bande dessinée. C'est un style qui, pour moi, se rapprochait du cinéma, même s'il y a beaucoup de différences dans la narration. C'était mon petit cinéma.
Ouais, tu pouvais faire tout ce que tu voulais.
Exactement.
Sans avoir les contraintes du cinéma.
Exactement.
Surtout si tu voulais faire... quelque chose de réel.
Voilà.
T'avais tout sous la main. Dans ta main.
Exactement. J'avais le monde dans ma main.
Tu mets une croix sur Tahiti ou la France.
Ah oui, pour moi, Tahiti, c'était
la page est tournée.
En vacances un jour.
Ouais.
Mais la page est tournée, oui. Et en fait, moi, je décide de rester à Bruxelles déjà.
Ouais.
Et donc, j'ai développé deux projets. Et en fait, ça n'allait un peu nulle part. J'avais commencé à écrire un
cinéma. T'étais tout jeune, quoi.
J'avais rien à raconter. N'avais aucune expérience à raconter.
Ouais, c'est
donc
clair.
Tout ce que j'écrivais, en fait, je sentais que c'était de la merde. J'avais rien à raconter. Et je me rendais compte vraiment de ça, que c'était, ça n'allait pas, honnêtement, pour moi, le travail que je faisais n'avait pas de qualité supérieure à un travail d'étudiant. Et je me suis dit, il faut que je trouve un scénariste, parce que là, sinon, je ne vais pas faire de
vidéo. Il faut que j'avance, il me faut du concret.
Il me faut du concret. Pour moi, le but est simple, je vais aller chercher un scénariste.
Ouais.
Et si je ne trouve pas le scénariste, l'année prochaine, je m'inscris à l'IAD, je fais du théâtre.
Ah ouais.
Et en fait, alors que je suis en train de faire mon sac, le mercredi, j'ai un coup de fil, un scénariste qui me propose un projet de bande dessinée.
Ah, mais d'où il sort, ce scénariste? Comment
très
il t'a contacté?
Je décroche mon téléphone et quelqu'un me dit bonjour, je suis scénariste de BD, voilà, je fais tel projet, c'est Hélène Lenoble qui m'a donné votre numéro.
Ah ouais.
Il l'avait appelé juste avant parce qu'il avait appelé la liste des anciens de Saint-Luc, et puis le projet qu'il proposait était un projet avec un dessin plutôt réaliste et on devait dessiner des bateaux en particulier.
Ah.
Et donc Hélène s'est dit, peut-être moi ça va peut-être pas trop, peut-être que Benjamin, donc elle lui a donné mon numéro. Donc il m'appelle, il présente son projet autour de l'America's Cup. C'est génial ce truc, quand est-ce qu'on se voit?
Ouais.
Et là le mec il se trouve qu'il s'appelle François Troquet, me dit je suis actuellement dans un établissement pénitentiaire.
Ah, donc là tous ceux qui écoutent Google François Troquet et vont être spoilés de la suite. Donc tu peux dire qui c'est.
Donc François Troquet c'était à l'époque en prison pour des faits de grand banditisme qui remontent au début des années 90.
T'as un bandit qui te contacte pour faire une BD.
J'ai un bandit, un grand bandit qui me contacte pour faire une bande dessinée.
Qui t'appelle depuis la prison.
Qui m'appelle depuis la prison de Namur et me dit, bah voilà, donc j'appelle depuis le téléphone de mon assistante sociale. Bon, bah d'accord, bah quand est-ce qu'on se voit?
Toi, t'as pas d'appréhension?
Ah ouais, ça se passe super bien.
C'est ton premier, il te parle bien. Ouais, mais il aurait très bien pu t'emberlificoter le truc, quoi.
Ah oui, mais en fait, ce que je me dis, c'est très simple. Franchement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Là, il y a un mec qui est en prison, il veut bosser avec moi sur un projet de bande dessinée, il me demande pas d'argent, il me demande pas de, je sais pas, de faire des choses illégales ou quoi. Il est adoubé en quelque sorte par son assistante sociale.
Il a intérêt à faire les choses convenablement.
Je vois aucun point négatif, je vois pas de feu rouge, donc je lui pose vraiment la question, bon, quand est-ce qu'on se voit?
Ouais.
Et donc il me dit, bah, ok, on va arranger ça, ma compagne va t'envoyer le scénario, et tu viendras avec elle à la prison. En visite. Et en fait, elle m'a envoyé le scénario le jour même. Le soir même, j'étais à Angoulême. Je découvre le scénario. Mon premier scénario de BD.
Waouh!
Ah, trop bien!
Mais
je me lance à fond.
Ah, t'aurais très bien pu ne pas aller à Angoulême puisque t'avais le scénario.
J'avais les billets et tout. Ouais. Et puis j'avais des choses à présenter.
Ouais, évidemment. Éditeurs, et puis pour toi aussi, j'imagine, t'étais jamais allé à Angoulême. T'avais envie de voir comment ça se déroule, un festival
exactement,
de BD.
Exactement.
T'avais fréquenté des festivals de BD avant, pendant tes études? Bah,
ouais,
ou des séances de dédicaces, des choses comme ça, dans les librairies à Bruxelles?
J'avais surtout fréquenté la célébrissime fête de la bande dessinée.
Ah, tiens bon, mais je la connais, cette fête de la BD
mais
d'Andenne.
Oui, la fête de la BD d'Andenne.
Ouais.
Elle, par contre, j'y avais été juste quelques mois avant, parce que Angoulême, c'est 2-3 mois après Andenne.
Ouais.
Et en fait, je rencontrais des auteurs, je rencontrais évidemment Tony Larivière.
Oui.
Son nom va revenir après.
Ah oui, on en parlera souvent de Tony, je pense.
Voilà. En fait, à Andenne, j'avais commencé à faire connaissance avec d'autres auteurs de BD. Et,
mais pas moi, bizarrement.
Ben non, non.
C'est bizarre.
À l'époque, on n'a pas dû.
Je te négligeais, t'étais un étudiant, moi j'étais déjà pro.
Exactement. T'étais de l'autre côté de la table.
Voilà.
Angoulême, là j'ai l'occasion de montrer mes travaux d'étudiant en particulier à différents éditeurs qui me donnent leurs avis. Et je rencontre en particulier d'ailleurs un certain Thierry Tinlot.
L'ancien rédac-chef de Spirou. À l'époque, il était rédac-chef de Spirou.
C'est le boss, quoi.
C'est ça, ouais. Ouais, il avait son personnage du boss en plus dans le journal.
Exactement. Là, il n'avait pas son cigare ni la casquette. Donc, il animait un atelier où, en fait, on montrait des planches, il en scannait quelques-unes, et ensuite, il faisait une sorte de conférence où il expliquait qu'est-ce qui va pas.
Il décortiquait les exemples pris un peu avant. Ouais.
Et je me souviens, j'avais présenté mon travail, Jacques aussi, puis il avait pris des trucs dedans et avait donné certaines indications et tout. Alors,
ouais.
Honnêtement, pardon Thierry, si t'écoutes ça, mais je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit.
C'était
à la fois positif et négatif.
Ouais.
Il y avait beaucoup de choses à revoir.
Ton orgueil n'en a pas pris un coup après ça.
Il m'a pas détruit, il était plutôt. Non, il pointait les problèmes et puis il mettait en avant les choses qui allaient bien, mais en gros, j'étais pas encore au point.
C'est ça.
Ça pouvait venir, mais j'étais pas encore au point.
Mais ça t'a ouvert les yeux quand même sur certaines choses.
Bah oui, parce qu'en plus, c'est la première fois que j'avais un retour pro.
Ouais.
En fait. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres éditeurs. Après, et puis montrer mon travail, hein. Je faisais la file je ne sais combien d'heures avec Jacques pour montrer mon travail. Et après ça, donc je suis rentré à Bruxelles, tout excité parce qu'à la fois je me disais c'est super, je vais faire de la BD, et puis à la fois, oh là là, il y a tellement de travail, on m'a dit beaucoup de choses, qu'est-ce que je vais faire? Mais au moins j'ai un projet, ça s'appelle Zoan,
c'est ça, ouais, je me rappelle.
Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à travailler avec François Trocaine, c'est à l'époque, donc je suis allé le voir en prison, et toutes les semaines, grâce à la directrice de la prison de Namur, j'avais eu l'occasion d'être visiteur social, donc je pouvais le voir en dehors des horaires de visite, et je le voyais 4 heures par semaine, et on bossait ensemble 4 heures par semaine pendant 3 ans, jusqu'à sa sortie en fait, jusqu'à la sortie de François.
Jusqu'à ce qu'il soit libéré de prison.
En fait, et il se trouve que là, c'est Alter Ego qui a pris le dessus, c'est-à-dire que lui, il avait d'autres activités professionnelles qui commençaient après. On a continué à travailler un peu sur Zoan, on a essayé de le présenter chez Dupuis à l'époque, parce que j'étais arrivé chez Dupuis avec Alter Ego, et là, je vais un peu en avant, mais il a vraiment... Enfin, c'est vraiment grâce au travail que j'ai fait sur Zoan que je suis arrivé à autre chose, en fait. Zoan, là, je pouvais faire du dessin réaliste. On me demandait de faire du dessin
c'est
réaliste.
C'est ça, ouais. Donc, ces 3 années... Vous avez travaillé 3 années sur ce projet, Zoan ?
On a travaillé un peu plus de 3 ans, je crois.
Ouais, mais il a eu le temps de vachement évoluer, alors, et
en
toi
gros,
aussi.
En gros, on a fait un peu plus d'un album au niveau du nombre de planches.
T'as bossé à fond ce projet-là, mais ça te faisait pas vivre. Comment ça se déroulait,
non,
l'élaboration ?
On se disait, ça va... Enfin, lui, de toute façon, il faisait ça...
Lui, il était nourri blanchi en prison, c'est pas grave. Mais toi, comment tu faisais ?
Ben moi, c'était donc mes parents qui étaient derrière en me soutenant comme si j'étais étudiant.
C'était toujours le principe.
C'était le principe. Je développe mon projet BD jusqu'à ce que.
Ah ouais, ils avaient. D'accord, ils te finançaient jusqu'à ce que tu puisses te lancer.
Voilà, ça m'a permis d'arriver jusqu'à Michel Vaillant. C'est à Michel Vaillant que j'ai vraiment gagné. Avant Michel Vaillant, mes parents, toujours un mois ou l'autre.
Ils te donnaient des coups de pouce. Ça devenait autre chose. Ouais, le rapport était différent.
Je leur disais, c'est bon, je vais de mes propres ailes parce que j'ai un travail de commande là, un travail de commande là. En fait, le travail de commande, ça dure un temps, ça retombait. Donc après, je leur redemandais des sous. Mais ils m'ont soutenu comme ça, ils m'ont jamais dit « bon, il faut que tu trouves un autre boulot ». D'ailleurs, à un moment donné, par contre, moi, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un autre boulot.
Ouais, tu l'as envisagé malgré tout.
Je l'ai envisagé à un moment donné, c'était pendant la phase creuse de Alter Ego. Il faut savoir que Alter Ego, donc, on a commencé à travailler dessus en 2008 et c'est pas sorti avant 2011.
Ouais.
Pendant tout ce temps-là, il fallait faire 3 albums au moins. Tu finis des albums, il prend pas le jour. Et tu gagnes toujours si peu, et tu peux pas vraiment présenter ton travail. C'est très bizarre parce qu'il y a une phase creuse comme ça où j'étais plus super motivé.
T'es dans le métier, mais personne te voit encore.
T'es dans le métier, en même temps pas vraiment, en même temps tu gagnes pas ta vie. Tu te dis peut-être qu'il faudrait que je trouve un vrai boulot à côté. Et au moment, je me souviens très bien qu'au moment où je leur ai envoyé un email, que je suis certainement retrouvé, je leur dis j'ai réfléchi, je pense qu'il faut que je me trouve un autre boulot à côté.
Ouais.
Et là, mes parents m'ont dit « Non, non, attends, on va continuer à te soutenir. Continue, t'es tout près du truc. On a confiance en toi. On sait très bien que tu vas y arriver. »
C'est un beau geste.
Ben oui. Alors que j'étais en train de leur dire « Bon, je vais essayer de faire en sorte de moins dépendre de vous. » Eux m'ont dit « Non, non, continue, fais de la bande dessinée, tu vas y arriver. »
Tout le monde n'aurait pas eu cette attitude-là.
Je pense pas. En tout cas, pour ça, encore une fois, j'ai eu de la chance. Mes parents m'ont vraiment soutenu jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Michel Vaillant. En fait, c'est vraiment eux qui ont permis que je n'ai jamais vraiment à me poser de questions sur le fait de progresser en bande dessinée, parce que sans ça, j'aurais fait peut-être un autre métier. Peut-être...
Ils te laissaient vraiment le temps de t'épanouir, et puis toi-même, t'arrivais à te situer aussi par rapport au métier.
Exactement. J'avais absolument tout ce qu'il fallait pour commencer une carrière BD sereinement. C'est-à-dire que pour moi, j'ai jamais pensé que j'avais un talent particulier, si ce n'est celui d'observer et d'apprendre. Mais j'ai pas forcément de talent de dessin ou de talent de narration. À chaque fois, je me disais, il faut que j'apprenne et que j'y aille. Ça va pas tomber tout seul. Je suis pas un virtuose du dessin, je suis pas un virtuose de la narration. Donc ma seule porte de sortie, c'est de bosser, bosser, bosser. Et pour que je puisse bosser, il me fallait des sous. C'est assez bizarre, mais pour BD au début, t'as besoin de sous pour bosser.
Ouais.
Alors qu'après, t'as envie d'avoir des sous parce que t'as bossé.
Ouais. C'est un cercle vicieux, hein. C'est vrai que on apprend en dessinant, quoi.
Voilà.
Et il faut avoir. Il faut avoir du temps pour dessiner.
Exactement.
Et pour avoir du temps, il faut arriver à en vivre. Et
J'avais du pain sur la planche.
Yes.
Et en fait, ils m'ont vraiment permis, ils m'ont vraiment remis le pain. D'ailleurs, tiens, t'as fini.
T'as fini ton pain, tiens, en voilà un autre.
Voilà, parce que j'avais pas forcément, je ne gagnais pas ma vie.
Ouais.
Et ils ont, en fait, c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu aller vers une carrière de bande dessinée, parce que maintenant je peux dire que je suis auteur de BD, je dis ça. Et puis en fait, après, il y a un truc particulier, c'est que j'ai toujours, dans ma vie professionnelle, les gros changements ont toujours été des surprises. Quand j'étais à l'école et que je dis que je voulais faire de la BD, il se trouve que ma mère est tombée par hasard sur quelqu'un qui avait fait l'école Saint-Luc. Donc par hasard, hop, voilà, j'arrive à Saint-Luc, c'est super. En sortant de Saint-Luc, je veux faire de la BD, je fais un projet, ça va pas trop. Par contre, il se trouve que par hasard, quelqu'un, alors que je cherche un scénariste,
on te contacte juste à ce moment-là.
On te contacte juste au moment où je devais faire ce choix. Parce qu'effectivement, même si j'avais voulu trouver un scénariste à Angoulême, c'est un peu bizarre de dire ça.
Tu vas pas à Angoulême pour faire un marché. Enfin, tu rencontres des gens, mais c'est un peu compliqué. C'est une première étape, c'est une première approche, Angoulême.
Mais en tout cas, c'est aussi pour montrer que je connaissais pas vraiment le festival.
Ouais.
Parce que je me suis dit, je vais trouver un scénariste à B, je savais pas trop. Et si j'avais pas, en fait, si François Troukens ne m'avait pas contacté le matin même, peut-être que j'aurais pas trouvé de scénariste, j'aurais peut-être fait du théâtre finalement.
Ouais.
Donc là, ça m'est tombé dessus vraiment par hasard. On continue, donc on est en 2008. Hélène Lenoble, toujours la même. Il se trouve que quand je vais voir François à la prison de Namur, bah, souvent à midi, je mange avec elle. Mm-hmm. Et puis un midi, elle me dit au fait, Tony Larivière. M'a dit qu'il y avait un dessinateur de BD qui cherche quelqu'un pour faire des décors d'une BD. Je sais plus comment il s'appelle, le mec, il fait des meufs à gros seins.
Présenté comme ça, c'est bien parti. Ah, voilà. J'imagine, ouais, pour toi aussi, ça devait être. Oulala, c'est quoi ce plan? Note que, au niveau des plans un peu chelous, travailler avec un prisonnier, même dans tes rêves les plus fous, tu y aurais pas pensé, quoi.
Exactement. Et là, en fait, il me dit, bon. Ouais, il dessine. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Dans ma tête, c'est bon, c'est quoi? C'est un dessinateur, ouais. Il sait juste faire des meufs et il veut quelqu'un pour faire des perspectives. Attends, c'est bizarre comme plan. Oh, ça m'intéresse pas trop. Puis elle me dit, bah attends, non, si, viens quand même. On va aller à la pharmacie de Tony.
Oui, c'est ça. Tony travaillait dans une pharmacie en plein centre de Namur.
En plein centre de Namur. Donc, on était dans la même ville. Il faut savoir que Namur est assez petit, donc ça tombait bien. J'allais à pied de la prison jusqu'à là où on mangeait avec. Avec Hélène, et ensuite avec Hélène on est allé le voir à sa pharmacie. Et là Tony, ah, bonjour, ça va très bien et tout. Ouais, donc ouais, j'ai pensé à toi. En fait, il se trouve que
vous, vous connaissiez.
J'avais montré mon projet Zoan à l'époque. Mm-hmm. J'avais montré le projet Zoan.
Le projet avec François.
Le projet avec François quelques mois plus tôt. Mm-hmm. Il avait circulé, j'avais montré quelques planches à la fête de la ville de Mandaine. Et en fait, bah, il l'avait gardé en tête, je suppose, parce qu'il me dit, ouais, j'ai pensé à toi, c'est un dessinateur, je sais plus comment il s'appelle, Mathieu, je sais plus. Attends, j'ai son adresse email, et là, il prend un papier, et il écrit l'adresse email, il se souvenait l'adresse email,
ah ouais.
Il écrit M. Rennes, et puis, mais c'est Mathieu Rennes. Ah bah oui, bah bien sûr, bah, je veux bien travailler avec lui.
Ah ouais, ouais, moi je signe, hein, je suis partant, je cherche des projets.
Et donc, le soir même, j'envoie un email à Mathieu Rennes. Mm-hmm. Donc encore une fois, ici, ça m'est tombé dessus. On a pensé à moi, j'ai rien fait pour...
Impeccable, les opportunités se présentent à toi d'elles-mêmes.
Exactement. Et là, donc j'envoie quelques dessins à Mathieu, et puis... Donc il me parle pas encore précisément du projet, il me dit que c'est encore un peu secret, donc
un peu de mystère pour mieux te vendre le truc alors.
Ben non, c'est surtout qu'à l'époque c'était pas encore.
Ou lui-même, lui-même ne savait peut-être pas en fait.
Et on était juste avant de nouveau Angoulême.
Ah ouais, ça ponctue à chaque fois Angoulême, j'ai l'impression pour toi.
Je pense que
c'est la coïncidence, ouais.
Et
ils montaient le dossier pour le présenter à Angoulême peut-être.
Et en fait voilà, ils étaient en train de monter le dossier, ils avaient déjà des discussions avec un éditeur, je savais pas lequel. Mm-hmm. Et donc ensuite, donc retour d'Angoulême, et il me dit, bon ben voilà, maintenant je peux t'en dire plus. Alors, c'est un gros projet, c'est un projet de 6 albums. Ça s'appelle Alter Ego, c'est avec...
ça s'appelait déjà Alter Ego à l'époque.
Non, mais
j'ai vu des trucs... oui, c'est ça. Tu vois.
Voilà, quelqu'un qui suit. Ça s'appelait Les Âmes Sœurs à l'époque. Et c'est avec Pierre-Paul Renders et Denis Lapierre au scénario. Puis dans ma tête, c'est... Et c'est chez Dupuis.
Ouah, des pointures. Pierre-Paul Renders, il travaille dans le milieu du cinéma.
Exactement.
Ça rejoint tes cours de théâtre, tes envies de cinéma. Denis Lapierre est un scénariste. Alors, moi, déjà
Lapierre,
établi.
Je connaissais son boulot parce que j'avais lu je ne sais combien d'albums de lui. J'avais lu Charlie en particulier.
Oui.
Donc moi, ça me faisait super bizarre. Je me disais, là, je vais bosser avec lui. Puis Mathieu Rennes, je suis tout content parce que lui, c'est
un dessinateur que tu apprécies. Ouais.
Et en fait, là, c'était un peu Noël avant. Après l'heure, en fait. Mm-hmm. C'était juste après Noël. Et en fait, c'est comme ça que ça commence. Donc il me présente le truc, donc je me dis c'est génial. J'étais encore en train de travailler avec François évidemment sur Zoan, et je me dis bon bah je vais faire un peu les deux,
du coup,
et puis faire en sorte de publier Zoan chez Dupuis.
Ouais.
Le truc c'est que plus ça allait, plus je prenais du temps sur Alter Ego, moi je prenais du temps sur Zoan.
Ouais.
Donc François était pas super.
Alter Ego, ça devenait du concret, il y avait Dupuis qui était derrière, que Zoan c'était un projet encore en attente, tu gagnais pas ta vie, donc fallait faire un choix.
Voilà. François, lui, il écrivait d'autres choses, il écrivait une autobiographie aussi.
Il était sorti à ce moment-là ?
Non, pas encore.
Toujours pas.
On a continué à travailler comme ça sur le projet Zoan, mais on l'a présenté à Dupuis. J'étais en train de travailler sur Alter Ego, mais c'était pas
ouais.
En fait.
Après 3 années à macérer, peut-être aussi, fallait une rupture, tu crois pas ?
En fait, je pense que j'avais encore beaucoup de défauts au niveau de la narration et du dessin. Purement et simplement, hein. Mon dessin n'était pas encore hyper au point par rapport à mes ambitions. Je voulais faire un dessin réaliste, et le problème du dessin réaliste, c'est que tu vois beaucoup plus facilement les erreurs.
Et puis entre la première mouture, 3 ans avant, et ce que vous aviez fait, ça avait bougé.
Voilà.
Au moins, ça t'aura permis de faire tes gammes. Et,
Exactement, c'est vraiment ce qui m'a permis déjà d'arriver sur Alter Ego. Sans ça, je ne serais jamais arrivé sur Alter Ego. C'est ce qui m'a permis aussi développer le plus possible, enfin déjà de faire mes gammes pour ce qui est du dessin de personnages en particulier.
Aussi, oui.
De pousser vers un dessin réaliste, comme je disais à Saint-Luc, j'avais envie de faire du dessin réaliste, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion ici. Ça m'avait poussé à ça. Et en fait, bah, il se trouve que François, il a commencé à avoir l'idée de faire l'adaptation de son autobiographie en bande dessinée. Mmh. Et alors que moi, j'étais chez Dupuis, bah, je l'ai fait rentrer chez Dupuis, en quelque sorte. Parce
ouais.
que, bah, il a présenté son projet chez Dupuis.
D'accord.
Zoan, bon, ils n'étaient pas chauds, mais par contre, ce projet-là, il l'a signé. Puis, petit à petit, on a arrêté de travailler ensemble parce qu'on avait chacun un projet différent. Donc il a commencé à faire un site internet, il a produit un court métrage et il a commencé à produire un long métrage qu'il est en train de tourner.
Oui, on a entendu parler. Hein,
voilà, ouais. Puis il est présentateur télé, donc on n'a plus trop le temps de faire de la BD ensemble. C'est pas plus mal parce que finalement la BD qu'on a faite, bah, ça nous a appris énormément tous les deux. Et moi ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Et puis lui, ça l'a aussi aidé à faire pas mal de choses.
Ça a été votre tremplin mutuel en quelque sorte.
C'est ça. Donc là, je dis alter ego, ça m'est tombé dessus absolument sans que je m'y attende. Mmh. Ensuite, il se trouve que quelques années plus tard, avec Luca Herbeta, l'autre dessinateur des décors sur alter ego, il me dit j'aurais besoin d'un dessinateur des décors pour des planches de Michel Vaillant.
Que Luca travaillait sur Michel Vaillant.
Et là,
à l'époque.
J'apprends que ouais, donc il a travaillé sur Michel Vaillant sur un dossier. Ça se passe difficilement parce que les délais étaient trop courts, il y a beaucoup de boulot pour les décors en particulier. Et donc il me dit pour ce prochain dossier, j'aurais besoin de toi pour faire les décors. Est-ce que ça va? Bah ouais, bah à fond, ouais, carrément, ouais, merci d'avoir pensé à moi, c'est cool.
C'est ça, cool.
Donc je commence, je fais quelques décors pour le dossier Schumacher, et là on était dans ce nouvel atelier.
On avait déjà déménagé l'atelier.
Donc je commence à faire les planches du dossier, les décors, hein, juste les décors, pas les voitures.
Mais là tu travaillais en collaboration avec les éditions Graton alors?
Bah c'est ça, c'était avec Graton éditeur, il n'était pas encore question de Dupuis, mais en fait si Luca a été approché par Graton, c'est parce qu'il était chez Dupuis, je crois que Dupuis...
D'accord, ils étaient déjà en contact peut-être.
Voilà. Et donc je fais quelques planches, et puis là celui qui s'occupait du dessin des voitures... Il y avait 3 histoires courtes, au total une vingtaine de planches, et sur une des 3 histoires courtes, il n'y a pas le temps de faire les voitures. Alors Philippe Graton m'appelle un peu embêté en me disant « Est-ce que tu saurais faire les voitures ?»
Mais attends, mon rêve de gosse.
Exactement, je ne lui dis pas, voilà. Mais dans ma tête, c'est « Ouah, trop bien !» Et en vrai, c'est « Oh, mais oui, tout à fait, oui, bon, ça me plairait beaucoup. Oui. »
Très posément.
Donc je suis tout content, je commence à apprendre à faire les voitures dans le style Vaillant. Donc là, je suis arrivé sur Michel Vaillant, totalement par hasard. On m'a appelé, j'ai rien demandé, et puis j'ai accepté. Et il se trouve que ensuite, j'apprends en parlant de Michel Vaillant à Denis Lapierre lors du lancement de
Alter Ego.
1er avril 2011, Denis Lapierre m'annonce en toute confidentialité, mais tu sais, moi je suis en train de travailler sur un scénario d'une nouvelle saison de Michel Vaillant. Ah bon ?
Vous aviez déjà l'habitude de travailler ensemble sur Alter Ego, et puis voilà, naturellement, le travail s'est amené comme ça, quoi.
Ben en fait, ici, il me dit, mais de toute façon, moi, j'ai pas mon mot à dire.
C'est Philippe Graton qui doit décider de qui va collaborer.
Ouais, parce que c'est lui l'éditeur, en fait. Donc ouais. C'est lui qui décide vraiment de qui fait quoi, comment ça se passe. Au mois d'octobre ou de novembre, j'ai fini de travailler sur Schumacher, il va sortir, et je reçois un coup de fil de Philippe Graton. Non, pas Philippe Graton, pardon, de Denis. Denis qui me dit, tu sais quoi, Philippe Graton a pensé à toi pour faire les dessins des voitures et des décors de la nouvelle saison de Michel Vaillant. Ah bon ? C'est pas toi qui l'as dit ? Non, je lui ai rien dit, c'est Philippe qui l'a dit.
Ah ouais. Est-ce que Denis Lapierre espérait secrètement, Philippe Graton l'a pensé, est-ce que toi tu espérais secrètement ?
Bah comme je travaillais déjà, bah, je suppose que...
Il t'avait sous la main et tu faisais bien le job, donc c'est peut-être pour ça qu'ils t'ont posé.
Mon travail est convenu sur Schumacher, donc il a trouvé naturel que je continue. Et j'ai appris après coup qu'en fait, ils avaient déjà sélectionné Marc Bourgne. Et donc, quand on lui a proposé mon nom, il a dit « Ah bah c'est cool, parce qu'en plus je connais... »
Ah bah fort bien.
super. Super. Donc j'étais bienvenu dans cette nouvelle équipe, donc j'étais tout content, tout fou, et genre... Je sais pas comment ça m'est tombé dessus.
Mais ça, c'est vraiment un truc idéal. Enfin, tu peux pas soupçonner des choses pareilles. Des formations naturelles, c'est vraiment le truc on ne peut mieux, la situation
c'est
rêvée.
Ça. C'est ça qui est bizarre, c'est que à chaque fois, ça m'est tombé dessus sans que je le réclame. Mm-hmm. J'en ai parlé à Denis, c'est même pas Denis qu'on a parlé à Philippe, il se trouve que c'est Philippe qui m'a directement rappelé, parce que Luca m'avait ramené, et j'avais rien demandé. Tu vois, à chaque fois, ça me tombe dessus sans vraiment que je... Je fais juste le choix de dire oui. C'est peut-être
c'est ça.
Ça la différence. C'est qu'on propose un truc parfois un peu farfelu. Tu veux bosser avec un détenu? Bah ouais, d'accord. Tu veux faire des décors pour une série. Pour une
qui
série
sortira secrète. Dans 3 ans okay.
Ouais, d'accord. Tu veux dessiner dans Michel Vaillant? Bah ouais, d'accord, ouais.
Tu veux me dépanner sur Michel Vaillant? Ok.
Faire juste les décors? Ouais, ok.
Tu veux dépanner Michel Vaillant? Ouais, tu fais la dépanneuse de Michel Vaillant? Ok.
Exactement.
Et maintenant, tu dessines Michel Vaillant.
Et maintenant, je travaille sur la nouvelle série de Michel Vaillant. Et alors, bon, bah, je vais pas en parler en détail, mais il faut savoir qu'il y a un an, maintenant il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion chez un autre éditeur de signer un autre album.
Mm-hmm.
Là, on m'a dit, mais c'est même pas moi, j'ai même pas proposé de dossier. On est venu me voir en disant, tiens, j'ai pensé à toi pour tel projet, ceci,
ouais.
ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, ok. Mm-hmm. Et donc, il se trouve que j'ai signé avec un ami de l'atelier, Antoine, que vous entendrez le nom certainement beaucoup plus tard, parce que c'est un futur excellent scénariste. J'ai pas proposé de projet.
C'est ça.
On m'a tombé dessus.
Ils sont venus te chercher.
Pour me proposer un truc qui me plaisait.
Mm-hmm.
En tout cas, l'angle qu'on a choisi me plaisait. Donc ça, a priori, ça sortira dans pas mal de temps, hein, parce que je fais Michel Vaillant entre-temps. Mais voilà, encore une fois pour ça, et puis que ce soit aussi pour d'autres travaux de commande, à chaque fois que j'ai essayé de faire de la pub et demander si quelqu'un, j'ai jamais vraiment eu de réponse ou de boulot ou de quoi, mais
ouais.
Voilà. Donc le truc, c'est que je me dis à chaque fois, lâche prise, de toute façon, c'est quand tu t'y attends le moins qu'il tombe des trucs dessus, donc c'est un peu l'histoire de ma vie, le fait d'accepter les bonnes nouvelles et d'accepter les projets qui me tombent dessus.
Bah c'est cool ça, parce que tout le monde n'a pas cette chance déjà d'avoir été soutenu par ta famille. Ça, c'est vraiment déjà un gros point positif et qui t'a porté sur toute ta carrière.
C'est exactement ça, je pense que ça a été le point de départ. Le fait qu'ils croient absolument dans l'incroyable, hein, dans l'incroyable dans le sens, dans le pas, ce n'était pas raisonnable de croire dans le fait que je pouvais gagner ma vie avec la bande dessinée. Il faut bien savoir que donc, quand je suis sorti en 2005, c'est la période où il y a eu ce boom de sorties. On était déjà à 3500 sorties par an en BD. C'est pas raisonnable de se dire « mon gamin va faire la BD, il va gagner sa vie avec ». Il n'y a aucune raison de le faire. Et pourtant, ils y ont cru. Et c'est en tapant sur le clou comme ça que c'est arrivé finalement. Parce que finalement, j'étais un peu contre vents et marées à chaque fois, sans vraiment avoir à me battre, mais plutôt en acceptant de bosser sur des choses qu'on me proposait. Et j'ai toujours, bon voilà, il y a toujours ce côté, bon ben je vais y arriver, je vais réussir d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment. Je pouvais pas savoir comment, vu que ce sont des choses qui me sont tombées dessus sans que j'anticipe. Voilà, c'est assez. C'est, parfois, quand j'en parle avec des amis autour de BD qui ont. On va dire qu'ils ont eu la vie plus dure que moi. Je me sens un peu illégitime en fait, c'est un peu bizarre. Parfois j'ai l'impression d'être tombé là, comme je fais sur la soupe, genre, hey, je fais la BD, les mecs, salut.
Mm-hmm.
Ouais, bah quoi, nous on a possible pour en faire. Ouais, bah, moi aussi, mais c'était cool, mes parents ils me payaient.
Mais ton attitude aussi, peut-être, a pu jouer, parce que t'étais serein aussi vis-à-vis de ça, tu te persuadais toi-même que t'allais réussir, et au final, ça a probablement aider aussi dans ton attitude, parce que t'étais pas aux abois, tu quémandais pas du boulot peut-être.
Je pense que ça a pu aider. En tout cas, j'étais très réceptif et très ouvert. J'ai toujours été plus ouvert possible à la critique en particulier. Toujours cherché à m'améliorer, toujours cherché à rencontrer des gens. Toujours cherché à rencontrer des nouvelles personnes, à me montrer mon travail, pas rester dans mon coin, me déplacer, aller à Angoulême, etc.
Oui.
Et pour moi, je pense que ça continue à m'apporter des choses positives aujourd'hui, parce que finalement les gens que je rencontre, après on se re-rencontre, puis on parle, hop, tiens, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, c'est ça dans le monde de l'édition, tu connais mieux que moi, tu connais quelqu'un qui a bossé avec quelqu'un, tu parles à quelqu'un, il va présenter quelqu'un d'autre qui a tel projet, etc. J'ai toujours cherché à vraiment développer le côté humain, le côté ça me plaît d'être là, ça me plaît de faire ce métier, ça me plaît de parler à ces gens, ça me plaît de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai eu l'énorme chance, parce que j'ai accepté pas mal de festivals BD, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer les stars de mon enfance.
C'est
j'ai rencontré justement l'auteur de Yakari, de Rib, avec qui j'ai beaucoup parlé encore récemment. J'ai rencontré Herman, on l'a rencontré ensemble, et c'était génial. Pour moi, ce sont les gens qui m'ont donné envie de faire la BD, et donc j'ai eu l'occasion de leur dire en vrai.
C'est ça qui est fou, hein, les lectures qu'on avait petits, et après, on a la chance de rencontrer les auteurs qui nous ont donné envie de faire ce métier aussi.
Exactement, et c'est ce que j'aime beaucoup avec le monde de la BD, parce qu'il faut bien, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup fait aussi de théâtre en amateur, Mais j'ai arrêté à un moment donné quand je me suis rendu compte que le monde du théâtre n'avait pas le même... En tout cas, le monde du théâtre que je connaissais n'avait pas la même attitude que le monde de la bande dessinée. C'est un monde plus étrange, où les gens ont d'autres problèmes à régler. On a tous des problèmes à régler, hein, mais dans le théâtre, les caractères sont différents, l'attitude est différente. Souvent, il n'y a pas la même solidarité. C'est souvent très très familier d'un côté, et puis parfois on se fait des coups de pute derrière. Alors qu'en BD, je voyais un monde extrêmement familier, en fait.
Ouais.
Les auteurs que je vois en festival, c'est des potes. C'est super, on est content de se revoir. On se fait pas des coups de pute, enfin, j'en entends pas beaucoup parler en tout cas de ça.
On se refile des plans.
On est très amis,
je te présente machin.
Voilà, on a un réseau finalement assez lié, et finalement, c'est une petite famille, parce que mine de rien, bon, bah. D'après le rapport Ratier, il y a 1500 auteurs en activité.
J'ai plus les chiffres en tête, mais ça va être quelque chose comme ça.
Il y en a beaucoup plus qui ont fait d'autres albums et tout ça, mais en gros, le noyau d'auteurs de BD publiés chez les grosses maisons d'édition comme toi et moi, bah, on n'est pas très nombreux. Donc finalement, on lit facilement conversation, on n'est pas forcément chacun dans notre coin. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
Puis on a aussi peut-être cet avantage. Nous, on est à Bruxelles. C'est le berceau de plein de choses. Il y a les éditeurs qui sont un peu plus loin. On est vite à Paris. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas forcément à Bruxelles, on peut nouer contact par Facebook. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil non plus.
Toi, tu bosses avec des Québécois.
Oui, je travaille quand je suis... Bah oui, je travaille avec les auteurs des Nombril qui sont au Québec, et par l'entremise de l'éditeur.
Ouais,
donc voilà, il y a certaines barrières qui peuvent tomber, mais effectivement, là tu disais, plus se rencontrer d'autres personnes, discuter, aller en festival, tout le monde n'a pas cette chance-là.
En tout cas, j'ai l'impression, parce que finalement je ne connais pas beaucoup d'autres métiers que celui de bande dessinée, hein, comme vous l'avez entendu. J'ai pas vraiment fait autre chose. Si, j'ai bossé un peu à l'usine à une époque, et ça a été très bien. Ça m'a permis de me dire, défonce-toi, fais de la BD absolument réussie, parce que t'as pas envie de bosser à l'usine.
Tu faisais quoi à l'usine?
Je suis donc étudiant, j'ai fini ma première année, et j'ai pas d'ordinateur. Je vais me payer un ordi, et donc je me dis, je vais bosser l'été, comme le font mes cousins. Et donc j'ai bossé dans une entreprise qui faisait des moteurs électriques. Et en fait, c'était des petits moteurs électriques pour des lave-vitres de voitures.
Ah bon ?
Encore rien avec la voiture. Et en fait, j'ai travaillé à la chaîne. Là,
on peut y voir un signe, d'une certaine façon.
Voilà, les moteurs électriques, les vitres.
Est-ce que tu dessines bien les moteurs de vitres ?
Écoute, vu le nombre de pièces que j'ai vu passer, je crois que je saurais redessiner ça.
Tu pourrais redessiner ça. Donc là, maintenant, t'es bien installé dans ta carrière de BD. T'envisages l'avenir assez sereinement, alors? Du moins, t'as ta série, t'as Michel Vaillant qui est en cours, ça
donc,
va continuer.
En fait, Michel Vaillant, donc j'ai commencé en 2012, et a priori, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Tant que ça se passe bien, on va continuer les albums. C'est juste parfois des bouclages un peu pénibles, parce que souvent on a trop peu de temps pour faire les albums. Mais ça me permet de vivre de la BD, parce qu'avec Michel Vaillant, je peux me dire à peu près que j'ai un SMIC, l'équivalent d'un SMIC... par mois sur l'année, en comptant les droits d'auteur et le travail sur les planches.
Ah, pas plus, parce qu'on pourrait s'imaginer, c'est quand même un petit succès.
On pourrait s'imaginer ça, mais la raison est très simple, c'est un gâteau, mais il y a beaucoup de parts. En fait, moi je suis un des deux dessinateurs, mais je suis un des quatre auteurs, parce qu'il y a deux scénaristes. Et puis il y a aussi l'auteur originel, Jean Graton, qui touche toujours sa part d'auteur. Et puis il y a la Fondation Graton. Donc en fait, moi, je gagne finalement assez peu par rapport au succès que pourrait avoir la Rome. En même temps, c'est normal. Hein. Moi, j'arrive, je profite aussi de la notoriété de Michel Vaillant. Michel Vaillant a vraiment fait un bond dans ma notoriété en tant qu'auteur, parce que d'un seul coup, quand je suis en festival, quand je rencontre quelqu'un, je lui dis bonjour, je m'appelle Benjamin Beneteau, je travaille sur la série Michel Vaillant. Ah bah oui, je vois. Alors qu'avant, Alter Ego, ça commençait un petit peu à se connaître.
Alter Ego a aussi eu son succès,
oui.
Mais c'était différent de quand on reprend une série qui a pignon sur rue.
Une série qui est connue même par les gens qui ne l'ont pas lue. Alter Ego, généralement, c'est connu par les gens qui l'ont lu, mais là, Michel Vaillant, c'est connu par tout le monde. Donc c'est à la fois une série très... très connu, mais en même temps, dans le travail de tous les jours, je gagne pas une fortune avec, c'est tout à fait normal.
On pourrait croire pourtant que c'est une série assez majeure, et malgré tout, c'est pas ça. Enfin, t'arrives à en vivre correct, mais tout juste, ouais, voilà. Tu vis bien.
Je vis pas bien.
Mais tu vis pas dans l'excès non plus.
Non, voilà, je vis normalement. Ce qui permet de gagner un peu mieux, c'est aussi les autres travaux que je peux avoir à côté. Grâce à Michel Vallion, par exemple, je fais des travaux de commande en rapport avec l'automobile. Et puis, finalement, on me propose d'autres travaux d'auteur.
La série te donne un rayonnement et te permet d'avoir du travail supplémentaire.
Voilà, et c'est ça, je sais que ce sera le cas, ce sera de plus en plus le cas. Maintenant, c'est sûr que le travail de Michel Vaillant est parfois un peu lassant, hein, parce que je m'occupe toujours des décors et des voitures, donc c'est parfois un peu répétitif. Mais il reste que dans la balance, les points positifs sont quand même toujours supérieurs aux points négatifs, et c'est un travail assez unique. C'est encore une fois ici quelque chose qui m'est tombé dessus et j'ai découvert un univers assez génial où on m'invite sur des circuits. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à Spa, j'ai été au Mans évidemment, j'ai été sur d'autres circuits, à Monza, en rallye, etc.
Ouais, c'est pas rien. Des choses qui te viennent grâce à la BD, quoi.
Exactement. Juste grâce au fait que je fais des dessins dans des albums. Mm-hmm. Alors, ça, c'est génial.
C'est génial.
Dans le milieu des auteurs de BD, enfin de la bande dessinée franco-belge, Michel Vaillant a toujours eu une place un peu à part parce que n'a jamais été vraiment apprécié des fans de BD. Mmh. Parce que c'est l'univers automobile, je pense que ça ne plaît pas forcément.
Ouais, mais en même temps, c'est un style graphique, tu vois. On dit Michel Vaillant, on a tout de suite des images en tête.
Voilà, et c'est pas forcément, c'est pas du tout référencé aussi positivement que le style Tintin ou le style Franquin, en fait.
Ah, c'est moins bien perçu alors artistiquement.
C'est ça, en fait. Philippe Graton expliquait que son père était. Finalement, donc Jean Graton a jamais été vraiment accepté, accepté par ses pairs de la même manière que beaucoup d'autres auteurs. C'est-à-dire, il a jamais été invité à Angoulême, par exemple. C'est assez particulier, ou jamais été primé pour ça, parce que c'est une BD qui associe deux publics qui sont assez différents. En fait, le public qui aime l'automobile, le public qui aime la BD, pas forcément le même. Et ici, on est un peu entre les deux. Donc quand on est sur des circuits, on a généralement beaucoup de succès et beaucoup de gens qui viennent demander des dédicaces.
Ouais, mais là, vous allez chercher le public où il est, forcément.
C'est ça. Et en festival BD, on a aussi beaucoup de succès, mais les gens qui viennent nous voir ne viennent pas forcément voir d'autres.
C'est ça, ouais.
Auteurs. On a un public un peu mixte, comme ça. Mmh. Mais en même temps, on essaie de donner ses lettres de noblesse à la nouvelle saison de Michel Vaillant. On fait tout pour que ce soit une saison intéressante.
Et l'avenir, alors, tu l'envisages comment ?
L'avenir, là, moyen terme, donc c'est le tome 6 de Michel Vaillant.
Ça, c'est, oui, ça c'est le maintenant, c'est tout de suite. Ça, c'est les mois qui t'occupent, là, c'est Michel Vaillant.
C'est Michel Vaillant. Après, c'est le projet secret dont je ne peux pas encore trop parler, mais mm-hmm. Tu sais très bien de quoi je parle.
Je sais très bien de quoi il s'agit.
Et après, a priori, ce sera un nouveau Michel Vaillant. Et donc, a priori, les années...
T'alternerais alors
J'alterne, en fait.
Ouais.
J'alterne, en gros, je fais un album de Michel Vaillant et puis je fais autre chose à côté. Le problème, c'est que j'ai envie de faire plein de choses. Mais en même temps, c'est bien Michel Vaillant.
Là, dans l'immédiat, c'est un certain confort parce que tu sais que ça sortira quoi qu'il arrive.
Oui, et puis ça augmente. C'est de plus en plus de notoriété, de plus en plus de ventes. Parce que même si les albums ne se vendent pas forcément aussi bien, y a tout le stock qu'ils ont.
C'est ça. Ça, c'est le principe. Donc, après,
des droits d'auteur, c'est intéressant financièrement.
Une série, quand elle a du fond qui tourne, ça fait vivre l'éditeur et les auteurs.
J'aime bien dessiner des bagnoles. Je suis le seul auteur de BD, ou presque.
Qui prend du plaisir.
Un autre qui dessine des bagnoles. Toutes les autres me disent « Ah, mais je sais pas comment tu fais. Ah, c'est vraiment nul, j'aime pas faire les bagnoles.
» Tu le fais bien.
Et à chaque fois qu'on dit ça, à chaque fois qu'un auteur de BD me dit « Ah là, je sais pas comment tu fais, moi ce que je déteste faire, c'est les décors et les voitures. » Puis moi je dis «
Mais c'est tout ce que je fais. »
Plus il y aura d'auteurs qui n'aiment pas faire les voitures et les décors, plus j'aurai de boulot.
Cool. Pour finir, si tu ne faisais pas de la BD, t'aurais fait quel métier ?
C'est une excellente question. Alors, j'aurais essayé de faire de la comédie, de faire du théâtre et du cinéma, et j'aurais certainement essayé de faire du cinéma tout court, en termes de réalisation. J'ai un frère qui maintenant travaille sur les plateaux cinéma à Berlin, qui est éclairagiste, donc il s'occupe de la lumière, et qui est surtout chef opérateur sur les plus petits tournages.
Chez FOP, c'est pas rien, c'est celui qui est derrière la caméra, le chef.
Voilà, il aide en tout cas à placer la lumière, à composer la lumière et les plans. Et donc c'est un gros boulot, c'est un boulot créatif très intéressant. Il a envie plus tard de devenir réalisateur, mais bon, il gravit les échelons peu à peu. Et moi, je pense que j'aurais peut-être fini par... aller peut-être dans cette voie-là. Maintenant, j'en sais rien, parce que comme je te dis, à chaque fois, ma vie professionnelle était jalonnée par des surprises. Et qui sait, Dieu sait quelle surprise j'aurais eu qui m'aurait fait orienter peut-être vers autre chose.
Ouais.
En tout cas, une chose est sûre, on ne serait pas là pour en parler, je pense.
Super. Bah, on va s'arrêter là. Écoute, c'était une chouette rencontre.
Nickel. Merci, monsieur Bécart.
Bah, merci à toi d'avoir été le premier invité. Et rendez-vous au prochain.
Voilà. Merci.
Au revoir.